Bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. Ça fait un moment que j'étais pas à l'église et j'ai l'impression que ça faisait un mois. Mais non, en fait, ouais, j'étais au Portugal, au soleil, il faisait super beau, super. Franchement, on a bu plein de coups, on était au bord de la mer, etc. C'est vraiment, ah là, c'était vraiment vrai. Et on pensait vraiment à vous. C'était trop bien. Et alors, on s'est pas baigné. Parce qu'il faisait 13 degrés, alors il faisait beau, mais il faisait pas chaud. On a vu un petit peu du pays, de la ville, mais pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on a vécu une super conférence. Et au travers de cette session et de la session suivante, on en reparlera samedi, donc le 24 février. J'essaierai de vous donner tout ce que je pense qui est bon que vous puissiez recevoir aussi, parce on a été vraiment encouragés par ces temps qu'on a vécu là-bas. On était à peu près 90 personnes. Ce n'était pas une conférence de 5000 personnes, c'était assez familial. Et on était les plus jeunes en fait à y être allés, avec Thomas, Sarah. Et en fait, ils ont été vraiment encouragés de voir que des jeunes prennent part à ce ministère. Et en fait, ils étaient super encouragés, mais nous, on était encore plus encouragés parce qu'on avait des grands frères et des grandes sœurs qui nous ont donné des témoignages, qui étaient là, qui vivaient des choses. On avait des patrons d'Angleterre, des États-Unis, on avait des gens qui, dans le business, par exemple, ont fait des affaires florissantes. Et c'est des gens très, très simples. On n'aurait pas dit, en fait, Voilà, et même des Français à quelques pas de chez nous, là, dans un des villages, il y avait un patron qui avait une entreprise qui est maintenant à la retraite, et cette entreprise était cotée en bourse en Angleterre. Donc, c'est des gens qui ont eu une sphère d'influence énorme, et c'est des gens qui étaient donc des chrétiens qui ont eu de l'impact sur leurs employés parce que ils ont donné un bon témoignage. Et ça, c'était super encourageant d'entendre ça et de les voir juste vivre et être, c'était inspirant. Donc, je vais essayer de vous transmettre voilà, certains aspects de la conférence. Je ne pourrai pas tout vous transmettre peut-être en deux sessions, mais en tout cas, on va essayer d'en parler. Et tout ce qui me viendra et tout ce que je peux vous rendre en témoignage, je vais essayer de le faire. On a été surboosté et je crois qu'il y a des choses vraiment super en réserve pour notre église. On est une des églises qui s'inscrit dans le ministère Compass. C'est comme ça qu'est née cette formation au travers du livre que vous étudiez. Et c'est en fait le fondateur qu'on a rencontré là-bas. Donc un homme qui était hyper, hyper inspirant, touchant et très, très simple. On était touchés qu'il ait perdu son épouse il n'y a pas très longtemps, j'ai l'impression, je ne sais pas trop exactement quand. Et il l'honorait d'une façon qui nous a tous, on était en silence dans la salle quand il a parlé, etc. Et c'était bluffant de voir qu'il nous encourageait à vivre une vie en ordre dans nos finances pour que nos familles soient vraiment en santé, etc. Et du coup, il nous parlait de sa femme, il nous parlait de sa vie familiale, etc., qui était justement impactée parce que c'est quelqu'un, donc le fondateur, qui a commencé ça à l'âge de 42 ans. Et longtemps avant, en fait, son expérience dans les finances, etc., était un petit peu laborieuse, entre guillemets. Il voulait faire du business pour uniquement gagner de l'argent et il était prêt à tout pour ça. Et Dieu l'a complètement transformé à partir du moment où cet homme a rencontré Jésus. Vous l'avez vu sur les vidéos, il s'appelle Howard Dayton. Et vraiment, il nous a transmis son cœur, il nous a montré que. Quand il a rencontré Jésus, il a mis vraiment tout son cœur, plus sur l'argent, mais en Jésus-Christ, et ça a bouleversé sa vie. Et donc voilà, c'était une... Non, avant 42 ans. Avant 42 ans, et du moins pas longtemps après. Voilà. Ok, alors cette session, l'introduction était longue, mais on va partir dans un module qui est en rapport et on va parler de contentement. Très très important et là-bas, c'est marrant qu'on ait cette session et ce thème-là ce soir après la conférence parce que les gens en parlaient beaucoup là-bas. ça se voyait dans leur vie, et ils mettaient l'accent sur ça pour nous éviter bien des dangers avec l'argent. Et quand on commence à avoir beaucoup, beaucoup de finances dans nos vies, attention, et ils nous en parlaient ouvertement. On a parlé d'éducation la dernière fois, et on va parler donc aujourd'hui de contentement. Mais avant ça, j'aimerais vous donner un témoignage, justement d'un des hommes qui était sur la conférence, qui était un des orateurs invités, qui est un des patrons, je pense, un des plus grands patrons en Angleterre. Il a une entreprise maintenant de publication, des choses où ils impriment des flyers, des revues, etc. Donc il a monté ce business-là il y a quelques années, après avoir fait d'autres choses dans sa vie. Et c'était un homme qui a raté toutes ses études, et à l'école, on lui disait qu'il ne réussirait rien du tout. Il mettait le trouble dans ses classes, etc. Et le directeur de son école, quand ce jeune-là, quand il était encore jeune, était venu lui dire « Est-ce que je peux repasser mes examens ?» Il avait dit « Non, rien du tout. » Et là, il a demandé à Dieu, il a dit « Seigneur, si tu me permets de réussir mes études, je te servirai toute ma vie. » Et en fait, Dieu a ouvert les portes pour qu'il repasse ses examens, etc. Et il est devenu, de fil en aiguille, un patron à renommée internationale, en fait. Et il nous racontait l'histoire suivante. C'est qu'un jour, il avait une commande qui est arrivée donc, dans son entreprise. Et cette commande, elle devait passer par un intermédiaire qui avait un stock dans un entrepôt. Donc tout son papier devait être découpé, si j'ai bien compris, parce qu'il parlait en anglais. Et ce stock-là, en fait, a été fermé. Cet entrepôt a été fermé et la personne qui gérait le stock a dit il s'est barré, quoi. Je ne sais pas pour quelle raison, je n'avais pas tout à fait bien compris. Mais donc Marc, ce patron anglais, ça l'a mis en panique parce qu'il avait une livraison à donner pour une instance, je ne sais plus si c'était gouvernemental, enfin, c'était vraiment un client qu'il devait honorer. Alors il était pris de panique, etc. Il s'est rendu à l'entrepôt et avec ses employés, etc. Ils ont essayé de forcer la porte, ils ont essayé de monter, ils montaient sur le toit, il a essayé de rentrer dans le bâtiment de toutes les manières qu'il pouvait. Et à la fin, il s'est rendu compte qu'il avait oublié de prier. Et il a juste dit « Ah ouais, c'est vrai que je pourrais aussi prier ». Et il a prié, et c'était le seul chrétien devant ses employés. Il a prié et à ce moment-là, Dieu lui a inspiré la chose suivante. Vous connaissez l'histoire de Jéricho, où le peuple fait le tour de la ville, etc. Et puis il y a un miracle qui se passe. Et Dieu lui demande de faire ça. Et il dit « Tourne sept fois autour du bâtiment ». Alors il a commencé à tourner autour du bâtiment sept fois comme ça. Et c'était un petit bâtiment. Il a dit « En une minute, je pouvais faire le tour ». Et les gens, ils ont vu que je faisais le tour comme ça. Et il a dit « J'ai fait le sixième tour et au moment où je faisais le pas pour le septième, il y a une voiture qui arrive comme ça, un gars qui sort et dit « Je sais que vous êtes dans une situation, c'est critique. Je vous ouvre le bâtiment pendant 10 minutes et vous le dites à personne parce que sinon je risque d'avoir des ennuis et on referme et on y va. » Il ouvre la porte, les gars ils rentrent dans le bâtiment, ils prennent tout ce qu'il faut, ils repartent et puis c'était réglé. Alors, il n'a pas dit que c'était un ange, mais la solution était là. Et il a dit, vous savez, j'ai appris plein de leçons, et il nous donnait les leçons comme ça au fur et à mesure, et il nous disait, toujours faire confiance à Dieu, il a toujours des solutions. Voilà, c'était l'un des témoignages que je voulais vous donner, et c'était super, super encourageant. Ok, le deuxième exemple, et pourquoi, vous vous êtes sans doute dit, pourquoi lui, que ce soir, il a une table avec son ordi et un pupitre. Et pourquoi je suis si fier? Ouais, c'est pour faire beau, c'est pour faire classe, c'est pour faire... Voilà. Non. J'ai changé de métier, ouais. Effectivement, tout ça. Alors, pourquoi je voulais montrer? Vous vous souvenez, je vous avais passé sur la session du travail, je vous avais passé un témoignage de Macpherson, qui a inventé des arcs et qui a été vraiment inspiré de Dieu, qui a inventé des guitares, qui a été inspiré de Dieu. Et ce pupitre, alors, je me suis ouvert un document il y a quelques années et je me suis fait un document sur tous les témoignages, toutes les histoires que je recense comme ça de gens, d'hommes, des femmes qui sont inspirés par Dieu et qui font des choses extraordinaires qui impactent le monde. Et ma première histoire que j'ai notée, c'était ce pupitre-là. Et c'était un pasteur, Brian Houston de Hillsong, qui a témoigné et qui a dit qu'un jour dans son église, il y a un homme qui a pris à cœur le fait de faire des pupitres parce qu'ils ont vu qu'il galérait à soulever des pupitres pour le mettre sur le stage, etc. Et qu'un homme a dit, moi je vais mettre devant Dieu et je vais me laisser inspirer et on va faire des pupitres pour notre église. Et en fait, il a été inspiré par Dieu et voilà le pupitre qui a été fait. Il est super, il est... C'est un quoi ? Un eye pupitre, c'est un... Ouais. En fait, ce pupitre est vendu dans le monde entier. Ça s'appelle Proxon, avec un C, Proxon pupitre. Et j'étais trop content quand on a décidé l'église de l'acheter, parce que pour moi, c'est d'abord un témoignage. C'est quelque chose que quelqu'un avec une équipe a fait en étant inspiré par Dieu. Et j'espère que ça va vous encourager à faire des choses. Ils étaient dans leur coin du monde, en Australie, et ils ont fait des choses qui ont impacté tout le monde entier. Aux États-Unis, même à ECP, on a été impacté. Et ça, je suis tellement fier. On peut faire des choses avec Dieu lorsqu'on se laisse inspirer. Et je crois, et je ne vais pas finir de vous encourager sur ça, que Dieu veut nous donner des solutions pour répondre à des problèmes, pour répondre à des choses que le monde a besoin, que nos églises ont besoin, etc. Et il ne veut pas passer par quelqu'un d'autre que vous. Donc allez-y, laissez-vous inspirer et osez. On va parler ce soir de confiance et je crois que Dieu veut qu'on ait confiance en lui parce qu'il va se servir de nous. Alors allons-y. Ok. Si vous voulez, on va commencer par prier, parce que là, j'ai beaucoup parlé, j'ai essayé de vous motiver ce soir, parce qu'on est vendredi, on est à la veille d'un bon week-end, et au lieu d'aller voir un film au cinéma avec Mathilde, parce qu'on a eu des places gratuites pour aller voir en avant-première un film avec Clovis Cornillac, qui est invité au cinéma à l'UGC, etc., voilà, on a gagné un truc par mon papa, et je me suis dit, ah, eh ben non, il y a formation. Mais je suis vraiment, vraiment content d'être là ce soir. Et ça aurait pu être l'accouchement aussi de notre de Mathilde pour notre petit garçon. Eh ben, j'ai dit 2 heures, mon gars. 2 heures, tu me laisses. Après, c'est bon. Ok. Allez, on va prier. Seigneur, merci pour cette soirée qui a déjà bien commencé. Et ce soir, je te remets, Seigneur, toute autorité, c'est toi qui l'as. Et je te remets ma bouche, je te remets mon cœur, je te remets mes pensées. Et aussi ce groupe, Seigneur, de frères, de sœurs qui ont envie, Seigneur, de progresser dans la foi, de progresser dans l'enseignement sur les finances, les biens, l'argent, etc., que tu nous confies, Seigneur. Alors viens encore nous dynamiser, nous parler, nous percuter ce soir. Et viens, Seigneur, briser des choses qui ont à la fois pris des places qui ne leur revenaient pas, Seigneur, et prends toute la place, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, et sois souverain, Seigneur. Merci pour l'enseignement sur le contentement ce soir. On a tellement besoin de l'entendre, Seigneur, de le réentendre, et de le réapprendre, et de le rapprendre encore, Seigneur. Alors viens faire ton œuvre en nous, Seigneur, surtout dans ma vie, Seigneur, surtout dans mon cœur, et viens encore nous amener à des projets, des choses glorieuses, parce que nos grands frères, Seigneur, qui nous donnent l'exemple, nous ont montré que c'est possible, Seigneur. Et tout est possible à celui qui croit. Alors viens, Seigneur, nous donner des pensées ce soir, une inspiration qui vient directement droit du ciel, Seigneur. Père, je veux tellement croire que ça va nous changer, qu'on va aller plus loin, qu'on ne ressort pas pareil de cette formation. Je prie ce soir et je prends victoire, Seigneur, sur nos raisonnements pour les amener à l'obéissance de Jésus-Christ, celui qui sauve, celui qui n'a jamais sauvé, qui n'a jamais aussi bien sauvé l'humanité, Seigneur. Merci Père pour tout ce que tu as fait au travers de Jésus. Fais-le encore ce soir, fais encore de ton œuvre glorieuse dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Parfois, je trouve que c'est important qu'on prenne du temps pour prier parce que on reçoit, on scelle des choses, on déclare des choses. Et moi, pour ma propre vie, j'ai souvent juste dit « Ouais, Seigneur, viens juste, dirige » et puis voilà, et sans vraiment prendre à cœur les choses. Alors, si on prend du temps un peu plus long comme ça pour prier, je trouve que c'est aussi bien de, d'honorer Dieu et de dire on peut s'arrêter dans nos habitudes de faire une formation, on prie, on raconte nos vies, etc. Et puis on repart, et puis voilà. Donc vraiment honorer Dieu dans tout ce qu'on fait et se laisser conduire par lui. Ok, alors ce soir, il y avait un verset biblique, et je n'ai pas envie qu'on récite le verset biblique de cette semaine, parce que ce serait trop simple. Vous êtes arrivé dans la voiture, vous avez fait comme moi quand j'ai appris la formation, vous avez regardé le verset, ce que c'est, vous l'avez appris, vous avez regardé la référence, etc. Vous êtes des boss. Mais si on regardait au verset de la semaine d'avant, ou de la session d'avant, est-ce que vous vous en souvenez? C'est moins évident, on est d'accord? On a fait l'éducation. Qui c'est qui est partant? Vas-y, Ézéchiel.
Bon, c'est pas les mêmes exacts, hein, mais c'est oriente le jeune homme sur la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en écartera pas.
Excellent. Impeccable.
Proverbe 6, 22. 22, 6. Voilà.
Excellent. Excellent. Tu l'as écrit sur le miroir ce matin, non?
Non.
Sur l'ordi, c'est mieux. Ok, super. Non, je vous challenge. C'est vrai que c'est la parole de Dieu. Et voilà, c'est important de se la remémorer. Le verset d'aujourd'hui, ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je ne sais plus la version que j'ai prise. Mais effectivement, comprenant le fond de ce verset, qui parle effectivement de contentement et qui parle d'abondance et un peu moins d'abondance dans nos vies, il peut y avoir des saisons comme ça, à nous de nous contenter en toutes choses. Premier jour, ça fait référence à la fois dernière sur l'éducation. On parlait justement de comment on peut transmettre à nos enfants tout l'apprentissage, tout l'enseignement sur les finances, etc., sur la gestion de nos biens. Et vous savez, pendant la session, la conférence au Portugal, ce qui était dit, ce qui était témoigné par les gens, c'est que les gens croyaient qu'en commençant une formation comme on l'a fait, eh bien, ils pensaient que c'était 12 séances, et puis après la formation, on a un diplôme, et puis on sait tout. Et les gens se sont rendus compte, peut-être vous aussi, que tout commence en fait. Et que même si on fait 12 séances, tout commence au bout des 12 séances, et qu'en fait c'est pour la vie. Et si vous l'avez perçu comme ça, vous l'avez perçu de la bonne façon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre du jour au lendemain, etc., de le mettre en pratique, et voilà, on vit des expériences et c'est bon. C'est pour toute la vie. Et Howard Dayton, qui a peut-être plus que 70 ans maintenant, je ne sais pas exactement son âge, mais qui a beaucoup d'expérience dans sa vie, il apprend encore, il est encore touché, il est encore utilisé par Dieu, etc. Et il a tout à fait encore besoin de mettre en pratique tous les principes que lui-même a enseignés toute sa vie, presque toute sa vie. Donc effectivement, on a besoin... à la fois de le prendre pour nous-mêmes, mais vous allez voir que plus vous allez le transmettre à quelqu'un, c'est ce que je fais par exemple, mais quand vous le transmettez à quelqu'un, vous, si vous êtes comme moi, vous dites, il faut que je le fasse, il faut que j'en sois un exemple. Parce que si la personne me dit, hey, toi, tu fais quoi là dans ça? Tu fais tout le contraire de ce que je vois, de ce que tu dis, etc. On est complètement illégitime et on est décrédibilisé. Donc essayez, prenez vos enfants, vos amis, prenez une personne, vous voyez répandez l'enseignement que vous avez par la personne que vous êtes, par le couple que vous êtes, la famille que vous êtes, parce que c'est ce qui transparaît, et ensuite donnez les principes pour les personnes qui s'intéressent, etc. Et puis semez autour de vous ce que Dieu met dans vos cœurs, c'est très important que vous puissiez être un instrument de Dieu, un instrument de bénédiction dans la vie des personnes. Et où c'est que ça va se passer le plus? Ce que je crois, c'est dans votre travail. On l'a vu. C'est là où Dieu veut vraiment révéler la personne qu'on est, le caractère qu'on a, parce qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps dans notre activité professionnelle ou dans le ministère, etc. Et c'est là où on voit les personnes, comment elles sont. Refléter Dieu dans ces moments-là. On avait expliqué effectivement quelques astuces pour enseigner à nos enfants avec le principe des boîtes, vous vous souvenez. Il existe plein de principes, je vous rappelle. Si vous avez des bonnes astuces, des bonnes expériences, transmettez-les-nous afin qu'on puisse les partager. Et au Portugal, on a eu justement des références de livres, etc., qui sont édités en anglais, par exemple, pour apprendre aux enfants à comment gérer leur argent tout petit, etc. Donc, c'est des livres qui sont, pour l'instant, qui sont pas traduits. Mais si vous voulez les références, je peux vous les donner. Et on peut. Ils nous disent même, si vous voulez les traduire, allez-y. C'est open, on y va, quoi. On peut les aider, quoi. Donc c'est trop cool que on peut dans tous les pays là Compass est en train de se répandre en Europe. Ils appellent les chrétiens à se réveiller en Europe pour ça. En Albanie par exemple, les chrétiens n'avaient jamais entendu parler. Enfin certains chrétiens dans certaines églises n'avaient jamais entendu parler qu'on peut gérer les finances avec Dieu, qu'on peut être prospère avec Dieu. Et quand des chrétiens qui étaient là à la conférence sont allés là-bas et leur ont dit, ils ont dit, mais revenez quand vous voulez, on a besoin de l'entendre. Il y a des régions dans le monde qui ont besoin d'entendre que Jésus, c'est pas juste Jésus pour le salut, pour nos péchés, etc. C'est un Jésus qui s'intéresse vraiment à nos vies et à tous les aspects de nos vies, et en particulier notre travail et tout ce qui est en rapport avec nos biens, nos richesses. Et nos finances. Okay, le jour 1, c'était un retour en arrière donc sur l'éducation. Je passe rapidement. Mais voilà, partageons nos différentes ressources, etc., si vous en avez. Je passe au deuxième jour. C'est OK pour vous? Est-ce que vous avez des remarques? N'hésitez pas à me... Comme j'ai fait une longue intro, j'essaye d'avancer. Comme ça, on peut voir la leçon. Le deuxième jour, donc dans les passages bibliques qu'on va voir, il y a certains dangers associés aux richesses. Et ça, c'est important de le mentionner, de le souligner. Et lors de la formation, ce qui en est sorti, c'est que par expérience, ce que disaient les pasteurs ou les enseignants qui étaient là-bas, ils disaient que les personnes riches ont beaucoup plus de mal à trouver le salut, la foi, etc., parce qu'elles ont tout. Et c'est plus difficile, et inversé, c'est plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et on le comprend, il expliquait avec des témoignages que certaines personnes voilà, qui ont des fortunes, et les gens, ils ont côtoyé des milliardaires, etc. C'est incroyable. Mais il disait, ces personnes-là, il faut leur amener Jésus d'une certaine façon. Et c'est beaucoup plus difficile pour elles d'accepter Jésus. Donc attention, il y a des dangers. Par rapport aux richesses. Genèse 13, versets 5 à 11. On va rentrer dans la parole de Dieu. Alors, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre les bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à ce soir comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Vous connaissez l'histoire qui conclut le choix de Lot, c'est qu'un jour, effectivement, il y a eu une destruction de Sodome et Gomorre, etc., du pays vers lequel il s'est, ou de l'endroit vers lequel il s'est dirigé. Et pour Abraham, il y a eu une plus grande bénédiction, entre guillemets. Et les richesses, parce que Lot avait en vue les richesses du monde ou de l'endroit qui était proposé. L'appât du gain ou de peut-être de la prospérité sur cette. Il avait ça en focus et ça l'a pas conduit dans l'endroit qui aurait été le mieux pour lui. Attention, parce que même quand on est membre d'une même famille, c'était le cas avec Abraham et Lot, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des dangers. La perspective du gain peut faire prendre des mauvaises décisions et ça peut être désastreux. Donc attention, on a un exemple biblique, donc ça peut se passer dans nos vies aussi. Ça peut être un cas beaucoup plus simple, etc. Ce n'est pas forcément des déménagements ou des choses comme ça, je le vois comme ça au travers de leur situation dans la Bible, mais voilà. Par contre, d'un autre point de vue, j'aime beaucoup la proposition d'Abraham. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, parce qu'on connaît tous cette histoire, on l'a tous au moins une fois entendue. Qui c'est qui ne l'avait pas encore entendu ? On est d'accord, on l'avait tous entendu déjà. Mais ce que j'aime, c'est que dans une situation comme celle-ci, donc Abraham, il a fait quoi ? Il a laissé Lot choisir. Mais il l'a laissé très librement choisir. Il a dit, écoute, on ne va pas se prendre la tête, on va arrêter les disputes familiales. Donc, ce que j'aime déjà, c'est qu'il était un artisan de paix. Et ça, si vous, dans votre famille, vous êtes quelqu'un reconnu comme un artisan de paix, je crois que le Seigneur honore ce genre de personnes, ce genre de cœur. Si vous êtes des personnes qui dans les conflits, viennent au milieu et disent « Stop, maintenant, on arrête. Comment on peut s'arranger ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui plaît à Dieu que nous puissions faire ? Et qu'est-ce qui va nous arranger dans notre situation ?» Et encore plus dans nos familles, parce que les familles, c'est le cœur... on a vu ça la dernière fois, de la bénédiction, là où coule la fortune. Si la famille est coupée, la bénédiction, l'héritage, tout ce qui peut en découler est coupé. Vous vous souvenez ? On en avait parlé dans le thème de l'éducation. Mais ce que j'aime beaucoup donc, dans l'histoire de Lot et d'Abraham, c'est que Abraham, il ne s'est même pas inquiété. Est-ce que vous le sentez ça dans le texte ? Il ne s'inquiète pas. Il dit « Ok, choisis ». Moi, je prends ce qui reste. Est-ce qu'on est comme ça dans nos vies ? Choisis ta part, moi, je prends ce qui reste. En fait, ça m'a permis de creuser un peu plus l'attitude de cœur d'Abraham. Mais surtout, Abraham, qu'est-ce qui a fait qu'il pouvait dire ça ? Ouais. Il avait la promesse de Dieu, effectivement. Ouais, il avait la promesse de Dieu. Il avait, effectivement, mais Dieu lui avait promis un pays où regorge le lait et le miel, où il y a vraiment des richesses. Et le pays ou l'endroit du pays le plus apparent par rapport à ça, c'était quand même celui que Lot a choisi. Donc, du coup, il pouvait se dire « Ah, je vais être lésé, bon, c'est pas grave, peut-être pas. » Mais finalement, ce que je comprends dans cette histoire, c'est que la confiance qu'Abraham avait en Dieu était infaillible. Et on sait qu'Abraham, c'est un homme de confiance. Lorsqu'il a livré son fils, etc., presque pour le tuer, il avait confiance en Dieu. Et ça se manifestait déjà avant cette histoire. Et il savait que Dieu réserverait à Abraham d'excellentes choses. Il ne le voyait peut-être pas, mais il le savait. Et là où j'aimerais mettre l'accent, c'était qu'il était persuadé que Dieu était au contrôle et qu'il ne manquerait de rien. Et ça, c'est important de le déclarer dans nos vies, parce que la confiance en Dieu, elle empêche quoi ? Elle empêche la comparaison et la convoitise. La comparaison et la convoitise, c'est des dangers pour nos vies et c'est des dangers qui souvent se manifeste quand il y a des richesses, quand il y a des biens, quand il y a de l'argent. Ça se manifeste souvent à ce moment-là. Si c'est, bref, je n'ai pas d'exemple qui me viennent, mais on a par expérience tous vécu qu'à un moment ou un autre, quand il y a des richesses en jeu, la convoitise et la comparaison peut souvent venir très vite. Et on peut le ressentir dans notre cœur. Et qu'est-ce que fait la confiance en Dieu ? Elle libère le contentement dans nos vies. C'est ce qui va déclencher aussi le contentement. Quand on est content en Dieu, c'est quoi? C'est simplement qu'on a confiance qu'il va pourvoir à tous nos besoins, qu'on va manquer de rien et qu'on aura suffisamment en toutes circonstances. Et moi, lorsque je préparais justement cette session, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je vous encourageais aussi à redonner plus loin ce que vous avez entendu à vos enfants, à vos voisins, etc. Et quand j'ai vraiment préparé cette session, j'ai dû confesser moi-même que dans ma vie, j'avais eu de la convoitise, j'étais sur les voies de la comparaison. Et j'ai dit, oh non, Seigneur, je te demande pardon parce que vraiment, je ressens des choses comme ça et j'ai besoin que ça s'enlève de ma vie. Et je vous en avais déjà parlé, mais j'ai vraiment encore... Voilà, on se met face à un miroir lorsque on est là pour enseigner, on est là pour donner, pour vous donner, etc. Je suis le premier à devoir faire face à des choses qui sont de cet ordre-là. Les dangers m'ont carrément aussi m'ont atteint aussi. Et j'ai dû dire, Seigneur, je te demande pardon et je veux être vraiment libéré de ça. Et en fait, je déclare que Dieu est ma source dans ces moments-là. Je déclare, je l'écrivais comme ça, que Dieu est au contrôle de ma vie et que je m'inquiétais de rien, que je m'inquiéterais de rien. Mais au moment où je l'ai écrit, j'étais pas du tout dans cette attitude-là. Je disais, Seigneur, j'ai tellement de foi, je me suis comparé, etc. Ça veut dire que j'ai pas fait confiance totalement. Et je veux encore apprendre. Je veux continuer de croire que tu vas vraiment pourvoir et que j'ai pas besoin de m'inquiéter. Mais à ce moment-là, j'arrivais pas à enlever l'inquiétude dans mon cœur parce que je m'inquiétais pour des choses qui étaient sur mon cœur. Mais je ne pouvais pas faire autrement que de prendre la vérité et de la déclarer jusqu'à ce que ça parte. Et à un moment, j'ai eu un verset que j'ai lu, mais que j'ai aussi commencé à prendre et à mettre dans ma bouche. Et je ne vous le redirai pas assez dans cette formation que vous avez besoin et que j'ai besoin de prendre la parole de Dieu et de la formuler, que mes oreilles, elles entendent. Et si je dois le crier, je vais le crier. Et ce verset, c'est Jacques 1, verset 17. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas, il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Et dans ces moments-là, j'avais besoin de dire que Seigneur, je m'attends à des cadeaux de toi, ils sont parfaits, ils sont merveilleux, que tes dons ils sont excellents et que tu vas encore me les donner. Et j'avais besoin de le déclarer haut et fort. Et je le déclare encore. Et Dieu ne change pas, c'est le verset qui le dit, Dieu ne change pas, Dieu ne change pas. Et je me l'impose, parce que mon cœur a besoin de l'entendre, mon âme a besoin de l'entendre aussi, parce que l'inquiétude peut prendre place, elle a besoin d'entendre la vérité. Besoin d'entendre la vérité. Et je vous dis, c'est incroyable que quand on prépare des choses comme ça, j'ai été travaillé par l'inquiétude et j'ai été mis à terre et je devais me mettre à genoux devant Dieu dans ma chambre. Et je dis, Seigneur, le matin, je m'inquiétais de rien. Je m'inquiéterais de rien et j'ai dû lutter. Les quelques jours, je ne sais plus quand c'était, il y a peut-être 2 semaines ou 1 semaine, c'était très difficile de sentir la paix venir. Mais je ne pouvais pas faire autrement, je vous le redis, que de parler la parole de Dieu. Et après, au bout d'un moment, on prend de l'assurance parce que Dieu envoie un miracle. Et puis il a commencé à me montrer que les choses pour lesquelles je m'inquiétais, eh ben, il était là, il était mon secours, il était ma main. Je devais avancer et oser par la foi en toute confiance, comme Abraham a avancé et osé par la foi. Dieu entend toujours les prières et il répond toujours. Il répond soit oui, soit non ou soit pas encore. Mais il répond toujours. Et ça, c'est bon de se le rappeler. Et quand j'étais au Portugal, à un moment, on parlait avec des personnes qui disaient ben, « On a prié pour des voisins, des amis chrétiens, etc. » Et on voit que leur situation, elle est toujours de pire en pire, de pire en pire. Et on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas « Seigneur ». Et les personnes qui étaient là, ils ont partagé le fait que Dieu, parfois, a besoin de nous amener dans un brisement total parce qu'on ne connaît pas le cœur des personnes et il a besoin de nous emmener jusqu'au plus bas où là, on lâche. Et on est vulnérable. Et Seigneur vient nous sauver à ce moment-là. Et il intervient. Il ne nous laisse jamais tomber plus bas que terre. Mais c'est vrai qu'on a besoin de se rappeler que bah, Seigneur vient jamais en retard. Il vient jamais en retard, mais il vient jamais en avance. Et Kurt, vous l'avez entendu quand il était là, mais il le redisait, il disait « Dieu vient au plus tard, à l'heure ». Et j'aime me redire ça parce que ça me rassure et ça me fait du bien de l'entendre. Et parfois, je me regarde dans le miroir et je dis « Oh, Dieu ne vient qu'au plus tard, à l'heure ». Donc, crois qu'il va venir et crois qu'il va faire un miracle. Et c'est avec notre foi qu'il travaille. Ok, continuons. Avec le verset Matthieu 13, verset 7, une autre partie, entre guillemets, de la semence, tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. C'était le premier verset. Le deuxième, Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. La question qui était posée, c'est qu'est-ce qui nous rend stériles spirituellement ? Ouais, prenez les micros, comme ça ceux qui sont sur le net et puis sur l'enregistrement entendent bien. Qu'est-ce qui nous rend stériles spirituellement d'après ces deux versets ?
C'est l'inquiétude.
L'inquiétude.
De lendemain, d'être accablé par les soucis, les porter soi-même et ne pas les déposer au Seigneur.
Oui.
On se laisse charger par des charges qu'on peut facilement déposer à la croix.
Oui.
Et voilà, on perd la communion avec le Seigneur.
Exactement, c'est ce qui est dit dans ces versets, c'est les ronces. Les ronces, ça pousse partout, ça pousse là où on ne veut pas, et ça pique, et ce n'est pas beau. Le seul truc qui est peut-être cool dans les ronces, c'est que parfois il y a des murs. Est-ce que c'est vrai ça ? Ouais. Il y a des fleurs aussi, ok. Mais ça pique, quand on met les doigts, ça fait mal, etc. Mais bref, le verset dit « parmi les ronces poussent et étouffent ». Et les ronces arrivent à se développer dans des contextes qui sont super, entre guillemets, stériles, et puis ils arrivent à se développer. On a besoin de se battre et de déraciner les ronces qui peuvent pousser dans notre vie, et c'est exactement les préoccupations de ce monde. Et j'ai fait une recherche en grec, c'est « merimna ». Et pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'on peut prier et dire « Seigneur, au nom de Jésus maintenant, Merimna, c'est fini dans ma vie, je déclare et on peut le nommer. Et pourquoi c'est important de le nommer ? Parce que quand vous appelez quelque chose par son nom, vous vous adressez directement au problème et vous avez le droit de déclarer avec l'autorité qui vous est donnée en Jésus-Christ et de terrasser ce problème. Et c'est ce que je prends aussi ce soir pour moi et j'ai envie de le communiquer. Merimna, c'est en grec les soucis, les inquiétudes. Et on a besoin de les déclarer vaincu à la croix et par le sang de Christ, on les purifie. Et j'ai besoin de me le rappeler chaque fois qu'il y a les préoccupations de ce monde. Les gens se préoccupent des choses et parfois vous dites « Mais pourquoi ils s'inquiètent pour ça ? Il n'y a aucun problème sur ça. » Mais vous avez Jésus et vous avez compris qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Mais la personne, elle s'inquiète pour des choses. Parfois, c'est des choses très basiques ou très banales. Parfois, c'est des grandes choses. Mais Rien ne doit persister dans nos vies, ni les préoccupations de ce monde, ni l'attrait trompeur. C'est le deuxième fléau qui peut nous rendre stériles. L'attrait trompeur des richesses. C'est ce qui est dit dans le verset, donc, dans Matthieu 13, 22. Et l'attrait trompeur, en grec, c'est apathé. Apathé, ok ? Et c'est la séduction, c'est la tromperie, les artifices, l'attrait trompeur, tout ce que ça montre, mais que ça n'est pas vraiment en fait. Et on a le droit de déclarer que Merimna et Apathé sont détruits au nom de Jésus maintenant dans nos vies et qu'on prend cette victoire. On l'a saisie pour nous, autant de fois qu'il faut la déclarer, on la déclare. Et là, je me parle carrément à moi-même aussi. Je me dis, on doit l'écrire sur notre miroir le matin. Si vous ne l'avez pas écrit, je viens vérifier la semaine prochaine. Sur les miroirs, avec le rouge à lèvres, vous l'écrivez. Okay, si vous n'avez pas de rouge à lèvres, on s'arrange. Okay. Et on a besoin, apathé, c'est A-P-A-T-E, c'est en grec. Et on a besoin de déclarer, vous le connaissez tous, ce verset en Philippiens 4, 6, je ne m'inquiéterai de rien, mais en toutes circonstances, je ferai connaître mes besoins à Dieu avec reconnaissance et je remercierai Dieu pour tous ses bienfaits. Il y a une clé importante dans ce verset, c'est qu'on doit être, on a le droit peut-être de ressentir de l'inquiétude. On a le droit de ressentir des craintes, des peurs, d'avoir des doutes, etc. Mais c'est qu'est-ce qu'on en fait avec qui est important. Est-ce qu'on va les laisser nous envahir? Est-ce qu'on va laisser les ronces monter plus haut et prendre de l'ampleur et devenir un gros... un roncier, ça se dit ça, un roncier? Je ne sais plus. Un arbre à ronces, voilà, un champ de ronces. Et finalement, dans nos vies, après, beaucoup plus de travail pour tout enlever, pour tout brûler, ou alors ça fait mal. On doit déclarer les choses, mais on doit aussi venir avec reconnaissance. Et vous savez ce que fait la reconnaissance? Elle nous positionne dans le contentement. Et ce soir, on parle de contentement. Eh bien, une des clés fortes pour savoir vivre le contentement, c'est la reconnaissance. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre, justement, que dans des moments de confusion, dans des moments où tu es tourmenté, où tu peux te sentir mal, c'est la confiance que tu as dans les promesses de Dieu qui va faire la différence. Et c'est important de les connaître, ces promesses. Et c'est pourquoi les versets qu'on apprend et qu'on repasse sur notre cœur sont des puissances de Dieu pour nous équiper, pour nous fortifier dans ces moments-là. Le Saint-Esprit va utiliser la parole de Dieu pour venir nous booster. Comme moi, j'ai eu tout don excellent vient de Dieu, tout cadeau parfait descend du ciel, etc. Et c'était un moment où j'avais besoin de recevoir des choses de Dieu. Et je me dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de recevoir des choses de toi. Et tu commences à parler la Bible, tu commences à parler les Écritures qui ont été laissées pour une raison, et tu commences à vivre des expériences. Et c'est ce qui est important. Et je crois qu'on a besoin de se le rappeler. Et parfois, on a besoin de confesser la parole de Dieu, mais aussi de persévérer et de tenir bon jusqu'au bout pour obtenir la victoire. Qui c'est qui a parlé la parole de Dieu cette semaine? Qui c'est qui... Amen, yes. Qui c'est qui a été là et qui a dit « Ok, Seigneur, ce matin, je suis dans la joie. » Bam, il a commencé à claquer un petit breakdance. Vous avez l'impression que je suis en forme, mais en fait, je me suis dit, Seigneur, ce soir, donne-moi des forces parce que je n'ai pas du tout envie de partager ce que j'ai écrit parce que la première personne qui a besoin de l'entendre, c'est moi. Alors, c'est pour ça que je suis... J'essaye de... Merci, Seigneur, voilà. OK. Dernier exemple pour le jour 2, on était dans les dangers. Matthieu 19, versets 16 à 23. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels ?» Lui dit-il, et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements même dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, viens, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsque ce jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » On en a parlé juste avant, et c'est ce qu'il disait à la conférence, c'est qu'effectivement, les personnes qui ont des richesses, des grands biens, est-ce qu'il y a un problème avec ça? Ok, on est d'accord. Est-ce qu'avant la formation, vous étiez d'accord avec ça? Ok, super. Il n'y a pas de problème d'avoir des richesses, de grands biens, il n'y a pas de problème d'avoir des possessions, mais... Ce jeune homme avait un cœur qui était sur ses richesses et sur ses possessions. Il est dit, il est difficile, mais il n'est pas impossible pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc on ne peut pas dire, ok, toutes les personnes qui sont riches, bah, désolé, tant pis pour vous, et on les laisse de côté. Mais Jésus a discerné le cœur de cet homme qui était attaché aux richesses, comme on disait, des richesses qui sont quoi? Trompeuses. Elles nous trompent. Elles nous disent qu'en fait, c'est en ça qu'on a de la valeur. Si tu as une super belle caisse, c'est parce que si t'es un homme, parce que tu as une super belle voiture, tu as la dernière Mercedes, etc. Ouais, là, tu peux venir te garer devant, etc. Par contre, lorsqu'on te prête la petite 106, là, parce que ben, tu te gares à l'autre bout du village, c'est des choses. Moi, j'ai besoin de l'entendre aussi. Et c'est vrai que peut-être que ce jeune homme riche dans l'histoire ou de la parole de Dieu, peut-être qu'il était, il était estimé parce que il avait une grande maison. Ce que je notais dans mes notes, c'était peut-être ça. On peut s'imaginer toutes sortes de choses. Quand il passe dans sa ville ou dans son village, les gens, ils savaient, waouh, lui, là, il a tout le quartier nord de la ville, etc. Et puis, c'est un homme d'influence. Ou peut-être que lui-même, il se disait, bah, parce que j'ai beaucoup de réserves, j'ai des immenses silos, j'ai des greniers qui sont remplis à foule, voilà, eh ben, ok, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Par contre, le mendiant là dans la rue, lui, il devrait s'inquiéter, etc. Et vous voyez, et en fait, on se met dans une attitude de cœur qui est vraiment pas bonne aux yeux de Dieu. Par contre, si on a des richesses, si on a des biens, si on est béni en abondance, si nos greniers sont remplis, qu'est-ce qu'on devrait faire ? On devrait être généreux, effectivement, être un canal de bénédiction. Voyez-vous comme des pipelines, souvenez-vous, et au travers duquel la bénédiction de Dieu coule. Et ce pipeline est toujours irrigué. Il reçoit aussi pour lui-même, mais il donne plus loin. Il reçoit pour lui-même, il est arrosé, il est irrigué, il donne plus loin. Et donc, une des vérités importantes à retenir dans cette étude, dans ces deux premiers jours, c'est de ne pas mettre notre cœur dans les richesses trompeuses, mais toujours en Dieu. Et on crierait tous « Amen » et « Alléluia ». Mais si on ne le sait pas, si on ne le croit pas et si on ne le vit pas dans les petites choses, si à un moment donné dans nos vies, on a beaucoup à gérer ou on peut avoir des promotions, etc., si on n'a pas assis ça dans nos vies, attention, on peut peut-être être sur une voie qui est dangereuse. Ça vous parle ? Et je vous en supplie, si vous voyez ça dans ma vie, si vous arrivez à discerner des choses, venez me le dire et puis cassez-moi les pieds pour dire « Luc, ce que tu as enseigné, tu ne le vis pas sur ça, je t'en supplie, il faut qu'on parle, etc. » Moi, je vous donne l'autorisation, ayez l'audace de venir m'en parler parce que on a tous besoin d'être comme ça, je crois. On a besoin, entre frères et sœurs, de pouvoir se dire les choses. Et ça nous sauve la vie, parfois. Alors, ce soir, je ne dis pas que ça va m'arriver, mais je dis si ça peut m'arriver. Et sur tous les autres sujets, soyons des personnes qui peuvent accepter, peu importe nos positions sociales ou notre position dans l'Église. Enfin, il n'y a pas de position dans l'Église, mais voilà. Qu'on puisse être repris et qu'on puisse être conduit dans la voie que le Seigneur nous donne. Ok. Troisième jour, ça va pour vous? Ok. Voyons, alors dans les quelques passages qui viennent, on va voir ce que dit la parole concernant la prospérité du croyant. Sur le net, pardon, ça va toujours? Vous suivez bien?
Yeah.
Ok, cool. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à intervenir.
Okay.
Je le redis chaque fois. Cool. Deutéronome 30, versets 15 à 16. Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez, pour en prendre possession. La vie, qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on de ce verset? On en tire que la vie, la prospérité, viennent de quoi? D'après vous? De Dieu, de l'obéissance, exactement. Et j'aime tellement, pour avoir été auprès de Courte quelques jours, auprès de ses amis, j'ai eu l'occasion de manger avec une dame un soir qui nous a vu dîner. On avait un super buffet, etc. Venez l'année prochaine, c'est à Rome. Ça va être un truc de ouf. Ce sera à Rome cette fois-ci. Je vous donnerai les dates. On a été vraiment chouchoutés et ils nous ont vraiment pris soin de nous. Voilà, c'était mon petit côté commercial. J'ai mangé avec une dame qui s'est mise à notre table un soir juste pour nous connaître. Une dame, voilà, je ne sais pas son âge. Et à un moment, toute la table est partie dormir. Et moi, je suis resté avec cette dame et on a parlé juste. Et elle m'a raconté un témoignage. Elle m'a dit, Luc, en Suisse, vous savez, tu sais, on croit tous que la Suisse, c'est un pays prospère avec des riches de partout. Tout le monde est riche en Suisse, etc. Mais tu sais que la Suisse a été dédiée à Satan à un moment ou à un autre. Elle dit, regarde, tu prends le symbole de la Suisse et c'est une, je sais pas si c'est une personne ou quelqu'un qui tient un petit bébé comme ça dans les bras. Et on l'appelle Helvetia, un truc comme ça, enfin, communauté helvétique ou un truc comme ça, voilà. Et elle dit, ça c'est une déesse, un truc, et ça a été voué à une déesse, etc. Et Dieu nous a mis ces choses à cœur à un moment ou à un autre. Ils sont un petit groupe de 25 personnes, à peu près. Et Dieu commence à les inspirer, à leur donner des pensées, etc. Et il leur montre qu'en Suisse, il y a eu à tel et tel endroit, il y a eu des choses qui ont été faites qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et ils ont dit, allez-y, maintenant, vous allez prier à tel et tel endroit. Et ils sont allés, ils ont passé des week-ends, et ils le font de temps en temps comme ça. Ils passent des week-ends et puis ils prient à des endroits. Et elle m'a dit, Luc, la dernière fois qu'on était prié, on était dans une vallée comme ça, où Dieu nous a montré qu'il y avait des choses de fou qui se sont passées dans cette vallée. Et je crois que c'est, si je me souviens bien, il y a eu du sang qui a été versé parce qu'à l'époque, sur le sel, la matière, le sel, c'était une matière, on dit une matière, ouais. C'était quelque chose de quand tu avais ça, t'étais riche, quoi. C'était, le sel, c'était quelque chose de précieux. Et il y a des gens qui sont morts parce qu'ils se battaient pour ça, pour ces ressources-là. Et elle dit, à cet endroit, on a prié, on a déclaré la victoire maintenant, on a dit, Seigneur, on te demande pardon pour le sang qui a été versé injustement. Ils ont prophétiquement pris du sel, ils l'ont jeté dans un lac, comme ça, pour le laver, etc. Et le lendemain, il y a eu un des plus grands tremblements de terre en Suisse qui a été répertorié depuis les quelques dernières années, là. Dieu manifeste sa gloire. Et elle dit, il nous conduit, il nous emmène à différents endroits comme ça et on prend des victoires. Et on est complètement épuisé à la fin du week-end. Mais en fait, physiquement, ils sont épuisés. Mais spirituellement, ils sentent que Dieu passe au travers d'eux. Ils commencent à prendre des victoires et ils débloquent. Et la Suisse vit des choses, des percées dans le domaine des finances, dans les choses comme ça. C'est pas pour rien. Ils demandent pardon au nom de toute la nation pour tout ce qui a été fait. Ils rassemblent des gens, ils rassemblent les... Kurt en avait aussi parlé. Pour se mettre à genoux et dire, Seigneur, pour notre nation, on te demande pardon pour ce qui a été fait. Tout ce qui a été pris sur les décrets, maintenant, on annule ces décrets, on les change au nom de Jésus. Ils prennent des victoires comme ça. Est-ce que nous, en France, on, et peu importe le pays, on ne le ferait pas aussi? J'ai hâte de voir que quand on va prier dans Oswald, il y a le plus grand raz-de-marée de tout Baguerzé qui vienne sur Oswald, mais un raz-de-marée d'amour. Et un bon tremblement de terre juste pour montrer que, voilà, Dieu a entendu. Mais j'étais trop encouragé. J'ai dit, waouh, ça me... Je suis trop content d'entendre ce qu'elle me disait. Ils vivent des expériences comme ça. Elle me dit, ouais, Dieu, il fait des choses, il nous inspire. On est juste à prendre du temps. Et ce que j'aime beaucoup, je les vois tous comme mes grands frères, mes grandes sœurs et tout ça, c'est qu'ils ont vraiment une communion entre eux qui est forte. Et ça, je crois que c'est important que, oui, nous qui y étons, on puisse ramener ça aussi, inculquer ça, et nous, dans nos églises, dans nos différents groupes, dans nos responsabilités, surtout à l'église, on soit dans une communion qui soit forte. Et je crois que Dieu va faire des choses excellentes. Et il va nous conduire, il va nous diriger, faire des choses qui sont extraordinaires. Voilà, c'était un petit témoignage pour dire que oui, Dieu nous donne le pays. Et il nous donne le pays qu'on peut prendre en possession. Ce n'est pas juste du blabla qui était écrit dans Deutéronome, qui est un ancien livre, qui est un livre de l'Ancien Testament, etc. Dieu veut vraiment nous donner. Et quand Kurt, je le disais tout à l'heure, nous parle, il dit toute la première chose, quand on veut mettre notre vie en règle avec Dieu, c'est de lui obéir, c'est de faire ce qu'il nous demande, c'est de recevoir ses commandements. Et commandement, ça fait un peu armé, ça fait un peu autoritaire, etc. Mais c'est des principes, des clés qu'il veut nous donner pour que si on les applique, on vive les bienfaits qui en découlent. Josué 1:8, c'est le verset suivant. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. On connaît tous ce verset et j'aime bien parce qu'il applique, il appuie pardon, ce que je dis tout le temps, c'est de méditer, c'est de déclarer. Et il le dit bien, aie soin de répéter sans cesse. S'il est dit « aie soin », ça veut dire qu'il faut qu'on... C'est pas naturel, c'est qu'il faut qu'on, s'y... qu'on trouve une méthode. Trouvez votre méthode, trouvez votre principe. Si c'est comme moi, moi je l'écris sur ma porte de la chambre et quand je prie dans ma chambre, ah, souvent je tourne sur mes yeux sur la porte et je le déclare, etc. Ou quand je suis dans mon lit, je vois ma porte. Et si vous venez dans ma chambre aussi, je me suis mis un tableau comme ça en liège et je prends plein de petits bouts de papier, toutes les couleurs, j'écris et j'épingle comme ça dessus. Et puis souvent, je me dis « Waouh, ça c'était un verset » et je mets une petite date comme ça. Ça me parlait à cette époque-là. Eh bien oui, c'est vrai, Dieu a fait un miracle et du coup, ça me fortifie, etc. Et en fait, chaque fois que je passe devant ou que je m'assieds à mon bureau, en plein milieu, il y a écrit « Dieu réalise l'impossible » ou des trucs comme ça. Et en fait, je me dis « Oh yes, c'est vrai, j'avais encore oublié de le déclarer aujourd'hui. » Et puis c'est vrai, etc. Prenez votre méthode que vous voulez, mais appliquez la parole de Dieu en ce verset 1:8 de Josué. Donc répétez sans cesse, méditez jour et nuit et appliquez tout ce qui est écrit. Et je ne sais plus qui c'est qui a raconté ce témoignage, mais je ne sais plus maintenant, ça va me revenir. Il a dit, cette personne m'a témoigné, ou vous l'avez peut-être, on l'a entendu ensemble, je ne sais plus. Il a dit, j'ai pris la Bible, j'ai pris un verset et je l'ai appliqué. Ah ben Sébastien qui le disait dans son témoignage un dimanche matin en Afrique, ils ont pris la Bible, vous savez dans la mission qui a super grandi et où il y a eu un réveil, ils ont pris un verset, ils l'ont appliqué, ils ont pris un autre verset, ils l'ont appliqué jusqu'au bout, etc. Et ils ont vu que ce verset produisait un impact dans la vie des gens, etc., dans leur propre vie, etc. Faisons ça en fait. Il y a du travail pour beaucoup de jours. Je ne sais pas si... Je pense que c'est possible de... Il y a du temps pour. Dernier verset de ce jour, Hébreux 11, versets 36 à 40. Je crois que c'est le dernier verset de ce jour. Non. Hébreux 11, versets 36 à 40. D'autres encore ont enduré des moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton, de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Est-ce que vous avez compris ce verset quand vous l'avez lu? C'est chinois. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'essaie de le creuser. Qu'est-ce que tu en as compris, Valentin? Est-ce que tu peux prendre le micro?
Moi, j'ai compris que Dieu, il est. Que les plans de Dieu sont parfois cachés à nos yeux et que des fois ça va bien au-delà de notre vie sur Terre. Il a besoin de nous pour commencer quelque chose. D'ailleurs, c'est un peu le rêve que j'ai pour notre vie à nous. C'est pas forcément de voir les fruits de nos actes ou de notre foi ou quoi que ce soit. Moi, le rêve que j'ai, c'est simplement de servir Dieu. Que d'être dans sa volonté, de lui obéir, etc., sans forcément voir le fruit, parce que j'ai l'espérance et je crois sincèrement que c'est surtout que j'ai pas envie de récolter le fruit. Je préfère que ce soit mes enfants, que ce soit les personnes pour qui où Dieu nous a placés qui récoltent le fruit à notre place. C'est un peu comme ça que j'ai compris ce verset.
Ok. C'est un point de vue. C'est bien. Ok, quelqu'un d'autre voudrait partager?
moi, je l'ai toujours compris comme ça, c'est que ces hommes-là, en leur temps, avaient aussi des promesses, et y compris la vie éternelle, plein de promesses, mais ils ont quitté ce monde sans avoir vu toutes leurs promesses s'accomplir, parce que Dieu ne voulait pas qu'il nous devance la perfection de l'ont pas atteint, parce qu'il y a encore nous qui allons suivre, quoi. Donc, en fait, ils nous attendent, et puis un jour, on verra l'accomplissement des promesses tous ensemble, quoi. Surtout la vie éternelle, quoi, la résurrection, quoi.
Mm-hmm. Oui, carrément. C'est effectivement ça. C'est des gens, des hommes et des femmes qui étaient des géants de la foi, comme on peut les appeler ça, qui avaient une foi énorme, etc. On pense à toutes les personnes qui ont été, le verset le dit, torturées, maltraitées, etc. C'était des personnes pas forcément connues, mais des personnes qui ont vécu des choses dures. Mais pourtant, ils n'ont pas... Vous avez déjà entendu ça dans le monde où des pauvres chrétiens du monde entier, ils refuseraient jamais de renier Jésus. Et ils n'ont rien finalement, ils ont rien. Et on les maltraite encore, etc. Mais ils ne renieraient pas Jésus pour rien au monde. Des personnes comme ça, ils ont vécu effectivement des dénuements, la fin de leur vie et puis des circonstances difficiles. Mais malgré leur foi, ça les a pas écartés des problèmes. Et ce que dit ce verset, effectivement, c'est que on peut être un géant de la foi, on peut connaître des circonstances difficiles et aussi, effectivement, connaître des circonstances difficiles, c'est ça que je veux dire. Notre foi ne va pas nous écarter de tous les problèmes et on va vivre sur une voie au calme, etc. Et si on médite, la question qui était posée, c'était de méditer sur la vie de Joseph, la vie de Job, la vie de David, la vie de Paul. Et qu'est-ce que on peut voir dans leur vie en rapport avec... la notion d'abondance et la notion de nécessité. Est-ce que vous avez su... alors Paul, c'était facile parce qu'on l'a déclaré dans le verset, on l'a vu dans le verset du jour, donc ça c'était facile, on ne prend pas Paul. Mais est-ce que pour Job, est-ce que pour Joseph, est-ce que pour David, est-ce que vous avez vu des choses qui ont été parlantes pour vous? Est-ce que quelqu'un voudrait partager? Vas-y Andrea, prends juste le micro.
Moi, j'ai vu qu'un point commun pour tous les trois, c'est que tous les trois sont passés par des persécutions, par la persécution. Et après, c'est exactement comme Jésus dit dans l'Apocalypse, celui qui vaincra, il aura la couronne. Voilà. Et à la fin de la persécution, ils ont été bénis par le Seigneur. Mais chacun a dû passer par des situations pénibles, des situations où même leur vie a été en danger, où ils pouvaient mourir, ils pouvaient être détruits, mais Dieu n'a jamais permis. Mais il a permis quand même qu'ils passent par là. Et ça me rappelle aussi le peuple juif qui passe 40 ans dans le désert pour apprendre qui est Dieu et pour apprendre à s'appuyer sur Dieu, et pour qu'après ils puissent rentrer au Canaan, dans le pays où coule le miel, le lait, le miel. Et voilà.
Effectivement, on voit de leur vie qu'ils ont connu des temps où ils étaient humiliés, où ils ont été rabaissés, où ils ont été maltraités, mis à terre, où ils ont été, si on pense à Joseph, il y a eu des promesses de Dieu et puis elles ne sont pas tout de suite accomplies. Et on a vu, on voit dans leur, si on lit les récits, qu'ils ont connu des temps où ils étaient dans l'abondance, où tout était bien, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et il y a des temps où ils ont été, comme je disais, humiliés, où ils n'avaient plus rien, Mais est-ce que, dans tous les cas, ces situations-là, d'après vous, est-ce que c'était dû à un péché dans leur vie? Est-ce que forcément, ils ont connu la détresse, l'humiliation ou des choses parce qu'il y avait un péché dans leur vie? Tu voulais donner une réponse, Valentin?
Je voulais dire un commentaire, mais je peux attendre.
Ok, garde-le au chaud. Vous avez dit non, effectivement. Jean, vas-y, prends le micro.
Ouais, je dirais plutôt, sur le point qu'on met sur les trois, c'est pas qu'ils ont forcément connu un péché, mais je crois que quand le Seigneur t'appelle et te prépare à une mission, hein, comme tu l'as rappelé, hein, souvent la voie, le chemin est plein d'embûches. Et pour que tu sois apte, mature, je crois qu'il faut que tu sois prêt. Et prêt, c'est déjà ce qu'ont fait ces trois hommes, le cas par exemple de Joseph, c'est-à-dire saisir cette occasion, comme dans ma vie, dans nos vies, quand tu saisis l'appel de Dieu, ce que tu entends, tu comprends, et une fois que tu comprends, tu sais où tu veux aller. Donc tu ne vas pas te laisser faire par ce qui se passe en chemin, puisque déjà tu connais la fin en fait. Parce que le but pour toi, c'est d'arriver de l'autre côté. Donc tu vaincras, parce que tu feras face au fait, par ta maturité, par ton intimité avec Dieu. Bon, c'est...
Très bien. Effectivement, parfois on peut se dire que dans nos vies, on rencontre telle ou telle situation, on est au fond du trou, etc. Et on peut se dire, Seigneur, moi je suis le premier à faire ça. Souvent je me remets en question, je dis, waouh, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu? Et pas forcément. C'est ça qui est important aussi de comprendre ce soir, c'est que même les plus grands, ceux qui avaient une foi au top, on va dire, ceux qui étaient un exemple et un modèle de foi, ils ont connu des situations qui ont été pas évidentes à vivre. Ils étaient au fond du trou, ou ils étaient en difficulté, etc. Et ce n'était pas parce qu'ils ont manqué de foi, ou pas parce qu'ils ont commis des péchés, mais c'est qu'un chrétien ne doit pas forcément idéalement connaître la prospérité tout le temps. D'accord ? La prospérité, l'abondance, voilà, tout ce qui s'y rattache. C'est ça qu'on doit comprendre, c'est que notre responsabilité, c'est d'être des gérants fidèles, avec peu ou avec beaucoup. Et ça, c'est important de le comprendre. Si tu es gérant fidèle avec peu au début, il y a de grandes chances que tu vas avoir beaucoup. Et je nous le souhaite et qu'on y reste dans ce beaucoup. Mais peut-être que Dieu, au bout d'un moment, il a besoin de travailler nos vies ou il a besoin de nous faire passer par un... si on regarde la vie de Job, irréprochable, et pourtant il l'a fait, on prend toujours cet exemple-là parce que c'est un des exemples qui... on n'aimerait pas vivre et tout, mais qui était quand même dans la parole de Dieu. Et il nous fait passer par un temps où il y a des nécessités, où il y a... Waouh ! Il n'y a plus le... Mais il est toujours resté gérant, fidèle. Il est resté fidèle à Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Le reste, c'est Dieu qui gère. On a besoin de se souvenir, justement, quand on passe comme ça dans des moments difficiles et des moments durs, des moments où c'est... de savoir qu'on est vraiment dans le plan de Dieu. Je ne dis pas que... toutes les situations où vous allez être au fond du trou, c'est OK. Peut-être que vous avez besoin de prendre une baffe de Dieu et de se dire, ah, attention, là, c'est vrai que j'ai... Là, c'est vraiment pour m'avertir. Il faut que j'arrête de faire ce que je fais, par exemple. Il faut que j'arrête de dire ce que je dis. Ou bref, que Dieu nous reprend et corrige les enfants, etc. Et ça, ça ne fait pas du bien. On n'est pas au top quand ça se passe. Mais à nous de discerner. Vous avez compris la différence. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Mais quand on passe par des moments durs, on sait que c'est le plan de Dieu, on sait qu'on n'a rien fait de mal, on est clean devant Dieu. On doit se souvenir que Dieu est souverain. Donc ça, c'est le verset Hébreux 11, versets 36 à 40. C'est ce qu'on a lu. Et on doit aussi se souvenir que, le Seigneur utilise des temps d'humiliation pour former notre caractère. Le verset Romains 5, versets 3 à 4, je ne sais pas s'il est mentionné dans votre livre, Romains 5, versets 3 à 4, confirme ça. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Donc on voit qu'il y a une construction, il y a une évolution, il y a quelque chose qui prend un processus. Et Dieu s'en sert parce qu'il veut nous donner, il veut nous amener à être matures et de plus en plus semblables à l'image de Christ. Ok. On doit aussi se souvenir que c'est possible que Dieu utilise des temps ou des choses comme ça, des circonstances, pour nous discipliner et nous montrer un péché dans notre vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hébreux 12, verset 6, nous dit « En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » C'est Hébreux 12, verset 6. Et Hébreux 12, verset 10, nous dit « Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme il le trouvait bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu le but, c'est qu'il nous amène à participer à sa sainteté. Le but ultime pour nos vies, c'est d'être saints. Et vous savez, quand on est allé à la conférence, je vais prendre un peu de temps pour vous partager ça. Il y a un pasteur qui s'appelle Eddie Fernandez, c'est un Portugais, un gars super barra comme ça, avec une voix qui porte à fond. Et il était enflammé, c'était le samedi matin. Et moi, je m'étais levé, je n'étais pas bien ce matin-là, et je vais à la conférence, et là, il commence à parler et tout ça. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand on s'approche de lui, peut-être au travers du sujet des finances, Dieu, il vient et il nous apporte des compléments pour tous les domaines de notre vie. Et je suis arrivé à cette session, je me suis assis, il a commencé à parler et il a dit, vous savez, le problème qu'on a dans nos églises, c'est que les chrétiens, ils ne ressemblent pas à Jésus. Et il a démonté le fait que des pensées de la philosophie romaine, etc., il a fait une thèse, et un jour il est parti aux États-Unis, il a fait une école biblique, tout ça, il a dû faire une thèse, et il a montré qu'on a beaucoup, beaucoup été influencés par la philosophie, par surtout nous en Europe, par la pensée romaine, etc., et que finalement, il y a encore des restes, et bref, et que dans nos vies, on reçoit Jésus, etc., mais dans nos églises, si tout le monde ressemblait vraiment à Jésus, ce serait encore différent. Et bref, il amenait ça, etc. Et là où c'est venu percuter mon cœur, c'est qu'on n'arrivait plus à l'arrêter. Il était enflammé, ça faisait tellement du bien. Tout le monde qui était là, qui écoutait, il y avait des traducteurs derrière, et on lui a même dit « Parlez moins vite, s'il vous plaît », parce qu'il débitait. Et en fait, il a fini, il a dit « Je peux encore parler 5 minutes ». Il a dit « Vous savez, dans ma vie, mon père, quand j'étais plus jeune, il me prenait par terre et puis il me cognait comme ça, il me donnait des poings dans la figure, il m'éclatait la tronche par terre. Et puis un jour, il m'a même dit « Mets un sac sur la tête, mets-toi une corde, jette-toi dans la piscine, t'es le fils du diable, etc. » Il le maltraitait à fond. Et lui, il n'était pas encore chrétien. Et comme ça, il vivait des douleurs avec son père, il ne comprenait pas et tout ça. Et son père était très, 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 très violent. Et à la fin de la session, bref, il dit « Ma mère, maintenant, est au ciel. Elle était décédée il y a quelque temps. Et son père, il est chrétien, etc. » Et ça m'a touché. Je fais « Quoi, son père est chrétien maintenant ?» Et tout. Et ça m'a tellement percuté que je suis allé le voir à la fin de la session et j'ai demandé, je dis « Pasteur, ça me touche ce que tu as dit. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus ?» Et tout ça. Il m'a raconté des détails, justement, que son père le fritait. Et je lui ai demandé de me dire comment il est devenu chrétien. Et il a dit, un jour, je me suis converti, je ne sais plus comment, il était même motard dans les Hells Angels, vous savez, les anges de l'enfer et tout ça, donc vraiment du côté obscur et tout. Et un jour, il a donné son cœur à Jésus, et il est parti faire cette étude biblique aux États-Unis. Son père a dit, mais c'est pas là-bas que tu dois être, tout ça. Quand il est revenu, il l'attendait, il mettait des... Bref, il le cognait. Et un jour... Ce pasteur, Eddie, était à l'église et il était en train de prêcher comme ça. Et il y a son père qui rentre dans l'église comme ça et qui s'approche devant et qui dit « Je veux accepter Jésus dans ma vie. » Et il le regarde comme ça et il lui dit « Mais papa, mais pourquoi tu veux accepter Jésus maintenant ? Tout ce que tu as fait, tout comment t'es et tout. » Il a dit « J'ai vu Jésus en toi et je veux Jésus, celui que tu as en toi. » Et il a accepté Jésus. Et aujourd'hui, ce papa-là, en fait, il appelle « Ça, c'est mon père. C'est mon fils et c'est mon pasteur. Ça, c'est mon pasteur. » Et aujourd'hui, il est complètement transformé, en fait. Complètement transformé. Il est super gentil. Il est doux. Il a dit, j'ai une relation avec mon père qui est merveilleuse, qui est... Oh, on se prend et tout ça. On vit un super, super truc. Il avait perdu son fils, parce qu'il s'était drogué. Et puis, il s'est explosé la tête avec les drogues et tout ça. Et un autre frère encore qui lui en veut et qui n'a pas pardonné à son père. Et en fait, Eddie, le pasteur, du moment où il a accepté Jésus dans sa vie, il montrait l'amour de Jésus à son père. Et ça, il me l'a dit à moi. Il m'a dit, Luc, tu n'as rien besoin de faire que juste de montrer qui c'est qui est Jésus dans toi. Et Dieu va faire le travail. J'ai dit, mais tu l'as invité à l'église, ton père. Il a dit, j'ai rien fait. Il est rentré dans l'église comme ça. Et il est venu de lui-même. Il a dit, je veux Jésus. Il a dit, les gens, ils vont vouloir Jésus qui est en toi. Alors, chrétiens, soyons des personnes qui montrent Jésus. On doit être transparent de Jésus. Et c'est ça qui touche. Et j'étais tellement percuté. Et je pleurais à côté de lui, là, dans le hall. Il a prié pour moi et tout. Et je dis, Seigneur, je te remercie parce que je savais que quand je me lèverais ce matin, tu allais me bénir. Et vous savez, Dieu fait des choses comme ça. Et j'aime trop parce que c'est au travers d'une formation finance qu'il est venu me parler pour mon père. Et il me dit, t'inquiète pas, montre juste Jésus. Et en fait, je me dis, mais c'est vrai, est-ce qu'on voit Jésus? Est-ce que quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez Jésus? Est-ce que quand les gens ils pensent à vous, c'est ce gars, il ne fait que de parler de Jésus, ou cette fille, enfin, oh, et puis il y a quelque chose qu'on sent et tout. Ça attire les gens à son admirable lumière. Et en fait, il a dit, les chrétiens, on devrait être des personnes tellement imprégnées de Jésus. Et il a dit aussi que le plan de Dieu, c'est de nous rendre saints de gloire en gloire. Et ça, on a besoin de comprendre que quand on commence notre vie avec Dieu, ça ne doit pas être l'année N-1, la N+1. Et plus on avance, on devrait être différent des années auparavant. On devrait être de plus en plus imprégné de la gloire de Dieu, du caractère de Jésus. On devrait de plus en plus... Il devrait y avoir une progression. S'il n'y a pas une progression, il y a un problème dans notre vie en tant que chrétien. Et si les gens ils voient pas que tu as changé, ou que tu as changé en pire, il y a un problème en tant que chrétien. Et j'ai envie de le dire, et je le prends pour moi, et je me dis, c'est... Si voilà, 70, 80, 90 ans, tu es encore pire que quand tu avais 50 ou quand tu avais 20, c'est pas normal. Parce que le projet de Dieu, c'est de nous emmener de gloire en gloire. Pas de gloire en condamnation, en faiblesse, en péché, en truc, ça doit être... Et ça m'a fait tellement du bien d'entendre ce pasteur qui le disait. Et puis, il a éduqué 3 filles, il disait, mais ils sont partout dans le Portugal maintenant, ils ouvrent des églises, ils influencent du monde, etc. Et puis, ils prennent des gens pour leur communiquer le fait d'être à l'image de Christ, semblable à la ressemblance, à la ressemblance de Christ. Voilà, pardon. Ça vous parle? J'étais trop encouragé et puis c'est tellement important. Le psaume qui était à lire aussi et à étudier, c'était le psaume 73, versets 1 à 20, on va le passer. Mais effectivement, on voit dans ces versets que Dieu bénit aussi les méchants. Et ça, c'est difficile pour nous. Mais je crois qu'ils vont être transformés à la mesure que nous, qui avons accepté le Seigneur, sommes transformés et sommes au contact de ces personnes. Au bout d'un moment, ils vont être confrontés par la lumière et ça va, ils vont plus pouvoir résister. Et on a besoin effectivement de montrer au monde qui c'est qui vit en nous. Ouais, j'avais noté que effectivement tout semble réussir à celui qui n'aime pas Dieu, mais qui perd tout en un rien de temps. Les méchants perdent tout en un rien de temps. Ils croient qu'ils amassent. Le diable est malin en fait. Il s'est donné envie. Et dans la vie des personnes qui n'ont pas encore le Seigneur, on a l'impression qu'ils réussissent, qu'ils prospèrent, etc. Et que ils n'ont pas besoin de se contenter, qu'ils n'ont pas besoin de faire toutes ces choses qui sont un peu difficiles pour nous, parce que le diable est malin et il s'est donné envie, il s'est contourné, il s'est rusé, etc. Et on a besoin juste de nous rappeler les promesses de Dieu. Par exemple, ce qui m'a beaucoup impacté aussi, c'est que dans la Bible, il écrit « Celui qui veut devenir riche rapidement perdra tout », un truc comme ça. Aussi rapidement, ou ça ne va pas durer longtemps. Si tu veux devenir riche rapidement, et c'était le cœur de Howard, c'était « on y va, moi je veux devenir riche » et il y va. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Jésus. et il a mis son cœur en Jésus-Christ. Et il a vu qu'il a été complètement transformé. Et vous savez, on parlait de 2350 versets, vous en souvenez, qui parlent de ça. Vous savez comment ils les ont trouvés, comment ils les ont comptés? Ils ont pris la Bible et Dieu et deux personnes, je crois, ils sont assis un soir et puis ils ont dit, toi tu prends cette partie, moi je prends cette partie. Et ils ont découpé des versets comme ça, ils les ont mis dans des petits récipients comme ça, et puis ils ont tout trié comme ça, et après ils ont tout repris, ils ont tout tapé, c'était il y a quelques années. Et ils ont commencé comme ça. Et aujourd'hui, on en est au bénéfice. Merci Seigneur pour ces personnes-là. Donc simplement pour dire que parfois on a l'impression, je me suis peut-être un peu embrouillé, mais on a l'impression que effectivement les méchants prospèrent, etc. Mais nous on a la parole de Dieu, on a plus de 2350 versets pour contrer, pour montrer qu'on est du bon côté. Parfois on a envie de dire, ah, j'aimerais mieux aller dans la voie de celui qui prospère et... Je sais que je devrais aller là, mais lui, il prospère tellement plus vite et tellement mieux, et ça semble, et c'est beau, et c'est... Alors que là, c'est une voie tellement plus sûre, et on ne l'apprend pas. On a besoin de changer notre manière de penser, et ça nous amène au quatrième jour, où on parle plus en profondeur de la notion de contentement. Et on va prendre un verset dans Luc 3, verset 14. Est-ce que c'est OK pour vous? Je n'ai pas passé trop vite le troisième jour, ça vous va? Ok, la notion de contentement. Donc, le contexte, c'est que Jean-Baptiste, il prêche la repentance et il dit aux gens ce qu'ils doivent faire pour changer. D'accord ? Luc 3, verset 14, il y a, à ce moment-là où il fait ça, Jean-Baptiste, il y a des soldats qui lui posent la question et qui disent « Et nous, que devons-nous faire ?» Et il leur répond « N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre salaire. » S'il leur dit ça, c'est que sans doute les soldats ont usé de leur autorité. Parfois, quand on a de l'autorité, on se voit pousser des ailes et puis on dit « Ok, ben, vous avez tous connu les agents de police, etc. qui, ok, ben, ils vont un peu plus loin que ce qu'ils auraient attribué, etc. » Et donc, forcément, dans ce verset, on voit que les soldats faisaient des choses qui déplaisent à Dieu. Pourquoi ? Pour avoir plus d'argent. Le problème, c'est qu'ils se disent « Oh, on gagne pas assez. » Je ne sais pas si c'était sous le commandement de Jules César, j'en sais rien, mais en tout cas, notre boss, il ne nous paye pas assez. Donc, quand on va chez les gens et qu'on va chercher, les impôts, par exemple, on va leur demander un peu plus. Et puis le surplus, on va se le mettre dans la poche. Ou alors, s'il y a une affaire qui est pas réglée, on va dénoncer quelqu'un, on va lui dire, on va dire que c'est sa faute. Et personne ne peut nous contredire, parce que sinon, on sort l'épée et puis on le tranche en deux, j'en sais rien. Voilà. Mais parfois, en fait, ce qui est illustré là, c'est qu'on peut glisser dans le péché. Pourquoi ? Pour gagner, pour recevoir, pour toucher plus d'argent. Et ça, c'est très, très dangereux. Parfois, il y a des choses comme ça qui se présentent à nous. C'est peut-être pas de dénoncer quelqu'un, mais c'est peut-être juste de masquer la vérité parce qu'on se dit, ah, si je le dis, sans doute que ma prime, elle va sauter. Ou si je le dis, mes allocs, elles vont sauter. Ou si je dis que je suis guéri parce que Dieu a fait un miracle dans ma vie alors que je bénéficiais d'une pension d'invalidité. Si je le dis, je ne l'aurai plus. Hein, vous voyez ce que... Et en fait... Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça bloque, ça ouvre des portes dans nos vies à des choses qui ne sont pas bonnes, comme la cupidité. Vous avez déjà entendu parler de ce terme? J'aime bien les termes qu'on peut explorer pendant cette formation. La cupidité, c'est celui qui, justement, vraiment a un appât du gain, a envie d'avoir plus de richesses. Et c'est marrant parce que Kurt, ceux qui ont lu son livre, de témoignage recto verso, vous savez, avec lui et sa femme et lui, il le témoigne. Et il a dit que c'était le point qui a fait qu'il chute vraiment bas. C'est que dans son livre, par exemple, il raconte qu'il a acheté un bateau. Et une fois qu'il avait ce bateau, ça ne lui suffisait plus. Il lui fallait le plus gros bateau. Alors il a acheté un plus gros bateau. Et une fois qu'il avait ce plus gros bateau, il se dit « Ah, c'est un peu petit comme bateau et tout ». Moi, je veux un plus gros et tout. Et en fait, les gens qui étaient autour de lui, ils lui disaient, mais arrête. Et puis, il gagnait bien, il pouvait se le permettre. Aucun problème. Financièrement, il pouvait s'en acheter 15 des bateaux. Et les gens lui disaient, mais tu ne trouves pas que c'est suffisant? Et c'est ça qu'il raconte comme témoignage. Il n'a pas réussi à se contenter et à dire, c'est quoi? C'est assez. Vous vous souvenez, quand on a fermé notre cercle, ils nous en ont reparlé à la formation, ils disaient, à la conférence, sachez combien est assez pour vous. Et il y a un des pasteurs qui disait, des gars qui a un des ministères le plus reconnu dans le monde latino aux États-Unis et tout ça, Chicago et tout ça. Il était là, c'était un gars trop, trop gentil, il était tout petit. Et pour vous raconter une anecdote, il disait, moi je croyais que Dieu allait m'appeler chez les pygmées, chez les pygmées, il m'a appelé aux États-Unis et quand je fais un hug à un gars, c'est son nombril que je vois. Et on rigolait et tout. Et c'est un gars tellement simple. Et le mec, il impacte des millions de personnes, je ne sais pas combien, mais il était là et il disait, vous savez, avec ma femme, on a direct, dans notre vie, on a mis des choses en place, des fondations qui sont bonnes. On a dit, ça, c'est assez. Tout le reste qui vient, on le donne. Voilà, ce n'était pas plus compliqué que ça. Et il disait, ça nous a protégés, gardé toute notre vie, et ça nous a permis de vivre des choses à la mesure du contentement. Et c'est ouf d'entendre ça. Et puis après, je sais pas c'est quoi la barre où c'est qu'il l'a placée, mais c'est des gens qui voilà, ils ont un impact, ils peuvent semer, ils sont une bénédiction. Donc attention. Que la cupidité ne puisse pas gagner nos cœurs et nos pensées. Et que le sang de Jésus, s'il y en a, c'est pas un problème de le détecter. Je crois qu'il est bon de confesser si on en a. Et parfois, c'est bon juste de dire, Seigneur, pardonne-moi, j'en ai, je ressens ça, je ressens des choses qui tendent vers ça. Si je laisse un peu plus de ça dans ma vie, ça va grandir. Et juste de le reconnaître et de dire, Seigneur, maintenant je te demande pardon pour ça, lave-moi, purifie-moi et change-moi, montre-moi comment penser et donne-moi plein de choses pour être une bénédiction pour les autres. Donne-moi un regard juste différent, etc. Et je crois que vous allez vivre, on va vivre, je vais vivre des changements, des transformations et Dieu va se servir de nous. Et Kurt expliquait justement que la cupidité et le fait de ne pas se satisfaire en fait a causé sa perte. Et il a tout perdu en un coup. Le choc a été vraiment lourd. Pendant des années, il a galéré. Il pourrait vous raconter. Vous lisez son livre, c'est vraiment un encouragement. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas vendu son bateau. Il n'a pas vendu son bateau et c'était son lieu de prière lorsque dans sa famille, parce que son couple était, depuis qu'il avait accepté Jésus, c'était très très difficile. Alors il allait se réfugier dans le bateau. Et un jour, il raconte que dans le port où il était, le bateau, il y avait l'eau qui était calme de chez calme. Et lui, il n'en pouvait plus. Il était à genoux comme ça par terre. Il disait, Seigneur, là, j'en peux plus dans la situation que je vis. Il faut que tu montres que tu es avec moi et que vraiment, ça m'encourage. Et là, le bateau, il tangue à fond et tout ça. Et il se relève et tout. Il dit, alors, je crois qu'il écrit comme ça. Tu l'as lu, Josiane. Et il dit, c'est qui l'imbécile, hein, plus vulgaire, qui est rentré dans le port à fond avec le bateau et qui a fait des vagues et tout. Alors, il monte sur le pont. Il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat dans le port en fait. Et là, il s'est rendu compte en fait que Dieu l'avait encouragé juste en faisant tanguer le bateau. C'est des expériences, il a dit, une des plus fortes que j'ai vécues avec Dieu, c'était celle-là. Et ça l'a tellement encouragé, il a dit, Seigneur, je sais que tu es avec moi et tout. J'aime trop, ce soir c'est une soirée de témoignage, mais je crois qu'on a besoin, parce que ce que Dieu fait dans la vie des autres, je dis toujours, on peut dire, Seigneur, fais-le encore. Tu l'as fait pour lui, fais-le encore pour moi, ou pour mon ami, pour ma famille, etc. Donc c'est bon de l'entendre. Philippiens 4, versets 11 à 13, on va essayer d'avancer. C'est le verset du jour, si je m'en souviens bien. Contredisez-moi. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai, Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. J'aime bien parce que c'est un secret. C'est écrit. C'est le secret que j'ai appris. En fait, il y a une clé derrière ça. C'est que certaines personnes ne savent pas vivre dans le dénuement ou bien dans l'abondance. Et Paul dit, j'ai reçu un secret, on m'a confié un secret, genre, hey, si tu sais vivre dans le dénuement et dans l'abondance, tu vas mieux t'en sortir que les autres qui n'y arriveraient pas. Et il a dit, j'ai appris ce secret, m'accommoder à toutes les situations et en toutes circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout, grâce à celui qui me fortifie. Et il disait, en fait, c'est un secret. Pourquoi ? Parce que ça le fait passer au travers de l'épreuve. Il se dit, c'est pas la finalité, c'est une saison. C'est important de voir les choses dans nos vies. Et c'est Mathieu qui m'encourageait, Mathieu Leclerc, qui m'a souvent dit, Luc, moi, je vois les choses comme une saison dans ma vie. Et ça m'a fait tilt. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est pas la finalité. Il va y avoir une autre saison après, et une autre. Après, les saisons sont plus ou moins longues. Il n'y a aucun problème. Mais chaque saison a une part importante dans nos vies et puis nous amène plus loin en fait. Mais si on reste dans une saison, si on n'est pas en mouvement dans cette saison, on peut stagner dans nos vies et finalement juste ne pas aller là où Dieu voulait. Donc c'est important et au travers du secret que oui, on peut se contenter de ce qu'on a, ça nous fait avancer. Le contentement, ce n'est pas une qualité qui est innée. J'aime bien penser à ça. Ce n'est pas un truc que, tiens, lui, il a plus de contentement que moi, mais voilà, on a été fait comme ça et puis on peut pas bouger, on ne peut pas changer. C'est un apprentissage. Plus tu apprends à être content, au travers de quoi ? Au travers de la reconnaissance, plus tu vas pouvoir passer les circonstances et juste les vivre bien. Parce que quand tu auras une famine, quand tu auras des moments difficiles, je pense qu'on en reparlera dans la dernière session, le samedi 24. Il va y avoir ça. On a besoin d'être préparé à des temps difficiles. Et on ne va pas forcément vivre du dénuement. Les chrétiens ne vont pas tout perdre. C'est dans ces moments-là, forcément, qu'on va pouvoir être un témoignage. Certains auront peut-être moins que d'autres. Certains qui ne seront pas au courant, ou qui, même chrétiens qui n'ont pas appris, qui pensent pas que voilà, on peut parler d'argent dans une église, vont avoir des surprises. Ça, c'est certain. Certainement que ça va se passer. Mais si déjà, avant les événements, on ne sait pas quand ça peut arriver, on apprend à se contenter, on va pouvoir avancer dans ces temps difficiles, et même prospérer dans ces temps difficiles. Pourquoi ? Parce que on aura appris à se contenter de peu et de beaucoup aussi. Et quand on se contente de beaucoup, dans des temps difficiles, on comprend que Dieu va se servir de nous pour être une bénédiction pour les autres. Et ça va être une puissance que Dieu va se servir, que Dieu va déverser dans nos vies pour toucher les autres. Et il le disait à la conférence, il disait, il va y avoir une moisson d'âmes, il va y avoir des gens qui vont être vraiment touchés par les chrétiens, les hommes et les femmes qui sont fidèles à Dieu, qui auront eu des ressources et qui vont être un canal de bénédiction. Dieu va se servir de nous. 1 Timothée 6, versets 6 à 8, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. On en avait parlé ça dans une je ne sais plus quelle session. Certaines personnes nous disent, peuvent vous dire, si tu as le vêtement, si tu as la nourriture, si tu as un toit, tu peux te contenter avec ça et c'est très bien. Cherche pas plus. On peut être d'accord avec cette affirmation si c'est le ministère que Dieu vous a donné, si c'est les ressources que Dieu vous a donné pour accomplir votre ministère dans votre travail, dans votre famille, dans peu importe. Mais on ne peut pas s'en limiter là parce que Dieu a appelé des gens dans ce monde et ils ont besoin de ressources qui se comptent à des dizaines de millions de dollars et on ne peut pas leur dire juste que oui, si tu as le vêtement et la nourriture, c'est bon, reste-en là. Mais par contre, si c'est ton cas, reste-en là parce que c'est bon pour toi. Ok ? Prends le micro. Ouais. Oui.
Souffre beaucoup parce que on voit pas Dieu qui pourvoit à tous nos besoins basiques. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours et qu'il prend soin de nous tous les jours. C'est-à-dire la nourriture d'aujourd'hui, le vêtement d'aujourd'hui, la maison d'aujourd'hui. Mais nous, on voit plus loin que ça. On veut plus que ça. Et on souffre parce qu'on est frustré. On ne les a pas. Alors, je crois que c'est important quand même d'apprendre, comme tu dis, de se contenter au basique parce que ça va nous aider de bien gérer les autres choses que Dieu va nous donner.
Exactement. Et c'est vrai que parfois...
Moi, j'ai eu besoin d'être... Le Seigneur m'a enseigné par rapport à ça. Il m'a tout balayé pour que j'apprends. Et je me suis rendu compte que je ne souffrais pas à cause du Seigneur, à cause de moi. Mm-hmm. Parce que je n'étais pas contente des basiques, du pain d'aujourd'hui. Tu vois, la manne d'aujourd'hui.
C'est intéressant de l'entendre. Merci, Andrea. Et c'est vrai que on peut se faire justement mal... tout seul, en fait. Dieu n'y est pour rien. On se fait du tort parce qu'effectivement, on n'a pas assimilé ces notions de contentement et de confiance en Dieu. La même confiance qu'avait Abraham, vous vous souvenez? Justement, ça m'ouvre à la question de poser... je relis juste mes notes. Effectivement, on ne va rien emporter et on n'a rien amené dans la vie. Qu'est-ce qui est dans notre culture? Quels sont les éléments, d'après vous, qui nous poussent à l'insatisfaction? Prenez le micro, ouais. Prenez le micro, c'est des bonnes réponses. Et tout ce qui s'oppose au contentement, en fait, qu'est-ce qui vient contrer ça? Pourquoi c'est dur de se contenter, en fait?
On est énormément influencé par les médias qui nous entourent, la télé, les tablettes, téléphones... Oui, bon, ça c'est les magasins, c'est encore autre chose, mais bon, ouais.
La publicité, oui, la publicité, tout ce qui nous... Ouais, qu'est-ce qu'il y aurait encore? Vas-y,
On est dans une société qui nous pousse à la consommation, donc ouais. À chaque fois qu'on achète quelque chose, en fait, on se rend compte que ça n'a déjà plus la valeur que ça avait quand on l'a acheté. Et il y a toujours quelque chose de plus qui va être mieux, qui va suivre, qui va être aussi plus cher. Et en fait, on nous pousse à acheter à chaque fois quelque chose de nouveau. Même si on a déjà eu un ordinateur, un nouveau, on va nous dire dans 6 mois, il y aura quelque chose d'autre et il faut l'acheter parce que c'est mieux, c'est nouveau. Donc à chaque fois, on se contente jamais de ce qu'on a, en fait.
Exactement. On en vient à la conclusion qu'on ne se contente pas et on est insatisfait, etc. OK. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Vas-y, Jean. Vous pouvez laisser les micros allumés ça. Ouais.
Ce que je voulais dire aussi, c'est quand on est en mauvaise santé, tous les médicaments qu'il y a sur le marché, alors que dans le temps, ça n'existait pas, il y avait les solutions, les plantes, on pouvait se guérir au travers des trucs. Alors que maintenant, c'est tellement industrialisé, on entretient la maladie en quelque sorte pour qu'on nous pousse à consommer les médicaments. Mais on ne guérit pas la racine pour qu'on soit guéri, en fait. Mm-hmm. Et quand on creuse le sujet, ça va très loin, quoi.
C'est vrai que ça, dans tous les domaines, il y a des intérêts financiers qui sont derrière. Attention, effectivement. Effectivement. Qui c'est qui veut encore prendre la parole?
Oui, merci. Juste compléter sur ce que tu as dit, hein, c'est un peu dans ce sens que souvent, en fait, c'est parce qu'on a... On a perdu la première nature. Hein. Qu'on soit chrétien ou pas, tous on était plus ou moins créés par un créateur, pour les langues chrétiennes. Donc c'est toujours Dieu, pour les chrétiens c'est Dieu. Souvent, qu'est-ce qui nous pousse à la consommation? Mais c'est parce qu'en fait, on est habillé d'une seconde nature, d'où on est sorti. Ça peut être en Amérique, en Europe, en Afrique. On a cette seconde nature qui fait qu'on est insatiable, quoi. On n'est pas satisfait. Donc, que ce soit le milieu, que ce soit l'environnement, que ce soit le voisin, mais voilà. Hier, je n'avais pas. Et une fois que j'ai je travaille, je veux acquérir ceci. Mmh. Voilà, donc ça peut être sur différents points, mais souvent, mais c'est parce que je suis habillé d'une seconde nature qui fait que, voilà, ça me pousse à faire, ça me pousse à dépenser, tout ça. Dans cette seconde nature-là, c'est pour ça que dans la Bible, je crois, il y a un passage, il faut que je revoie ça, qui nous dit que notre vraie première nature, c'est la nature divine. Hein, c'est la nature divine qui fait que quand je sais d'où je viens, qui je suis, l'identité que le pasteur nous a, bon, tout de suite, je sais ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, bon.
Alors oui, effectivement, c'est bizarre, mais on l'a tous expérimenté. On est d'accord que l'insatisfaction, elle vient, on ne l'a même pas demandé qu'elle vienne, et on ne sait pas d'où ça vient. Et même quand on est chrétien, ça peut nous arriver régulièrement ou pas régulièrement, mais on ressent aussi ce genre de choses. Donc effectivement, on doit lutter contre quelque chose. Et puis, souvenez-vous, on l'a vu dans les toutes premières sessions, un esprit qui est derrière tout le monde financier, etc., des richesses, de l'argent, c'est Mammon, qui pousse dans tous les domaines qu'il va pouvoir, par lesquels il va pouvoir passer, il pousse. Donc là, on a la publicité, on a les familles, enfin, il y a plein de choses par lesquelles il a des accès et il va mettre des pressions. Et effectivement, on doit résister à ça, parce qu'elles seront là, elles seront à notre porte. C'est pas parce que vous allez être plus près de Dieu que la publicité, elle va s'éloigner de vous, mais vous allez réussir par contre à avoir autorité. Et je sais pas si maintenant vous n'arrivez pas à vous empêcher d'acheter, vous êtes un acheteur compulsif, parce que sur le net, chaque fois que vous ouvrez une page, il y a un truc qui s'affiche, je dis oh, mais ça me le faut, etc. Ouais, il y a besoin de vivre des choses. De transformer de l'intérieur, de comprendre et puis de demander à Dieu vraiment qu'il nous transforme dans nos raisonnements et dans notre intelligence. Et c'est effectivement au travers de la reconnaissance qu'on va pouvoir gagner ces choses. Vous voyez, vas-y Clémentine. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Ouais, laissez le micro allumé, il n'y a pas de souci.
En fait, c'était par rapport à tout ce qu'on a dit maintenant. Je voulais juste rajouter quelque chose. C'est que, en fait, ce que Jean venait de dire, quand Dieu nous a créés, je pense que tout ça vient de la convoitise, en fait. Donc, par les cinq sens, la vue, l'œil, ce que mon œil voit, mon oreille entend. Donc, et Dieu qui nous a créés, il est esprit. Et nous allons aussi fonctionner par l'esprit. Donc, il faut rééduquer l'âme. Parce que l'âme, c'est quoi? C'est nos sentiments. Ce que mes yeux voient, donc ça me pousse à... Donc, si mon âme n'est pas éduquée par l'Esprit de Dieu qui est en moi, donc je serai toujours tentée à la convoitise, en fait, à ce que mon œil voit, à ce que mon oreille a entendu. Mm-hmm. Donc,
ouais, très bien. Merci pour les compléments. C'est super. Mais effectivement, attention. Et comme l'a bien dit Clémentine, c'est vraiment de faire attention et d'éduquer notre âme. Et vous l'éduquez comment? Avec la parole de Dieu et déclarer ce que Dieu dit. On peut déclarer des choses qui viennent de nous et ça n'aura pas le même effet. Donc, à connaître la parole, etc. Et la déclarer. Et j'en reviens justement à une des clés fondamentales pour pratiquer en tant que croyant le contentement, c'est la reconnaissance. J'avais utilisé Philippiens 4:6 avant. Faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu nous demande et nous dit que c'est possible, tous nos besoins, on peut les faire connaître. Comment? Par des prières, avec des supplications, on peut même supplier Dieu. Pour moi, quelqu'un qui supplie, c'est quelqu'un qui prie avec ferveur, quelqu'un qui veut arracher une bénédiction, que ça lui tient vraiment à cœur. Quand on supplie, pour moi, c'est qu'il va prier jusqu'à obtenir une réponse. Il dit avec supplication et il dit... avec reconnaissance. Il dit, si tu peux faire tout ça, mais si tu ne le fais pas avec reconnaissance, il y a quelque chose qui manque. Et je crois que la reconnaissance, c'est justement ce qui va verrouiller notre foi aussi. Reconnaissance, ça veut dire qu'on sait que Dieu a fait des choses dans nos vies, on sait que Dieu a fait des choses dans la vie de ceux qui nous entourent, pardon, et qu'en le proclamant, pendant qu'on exprime nos besoins, ça va créer la foi que tu l'as fait, Seigneur. merci encore pour cet événement dans ma vie qui était arrivé il y a 5 ans. Je sais que tu l'as fait. Aujourd'hui, j'ai des besoins. Je sais que tu l'as fait il y a 5 ans. Tu peux encore le faire. Tu peux encore tu vas agir dans cet autre domaine, mais tu vas encore agir. Et du coup, ça nous assied, ça nous rend fort, en fait, parce que Dieu a agi dans nos vies. Et ça, c'est important. Il y a un passage dans la Bible, je ne sais plus quel passage, où le peuple d'Israël, il est écrit qu'ils ont oublié ce que Dieu avait fait, ou que les ancêtres n'ont pas transmis de génération en génération. Ils ont oublié, et puis ça, le témoignage s'est perdu. Et c'est important, quand vous vivez quelque chose avec Dieu, vous pouvez le noter. C'est, quand vous le notez, vous pouvez un jour le relire, mais vous pouvez aussi le transmettre. Et c'est vachement bien pour créer de la foi et entretenir la foi. Et il est dit que si on fait ça, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va nous garder, va garder nos cœurs et nos pensées. Elle va verrouiller nos pensées. Au lieu de penser convoitise, au lieu de penser « Ah, j'ai besoin de ça », au lieu de penser « Ah, Seigneur, vu que j'ai pas ça, ben, il me le faut. » Non, non. Seigneur, je sais que tu vas me donner les choses qu'il faut au bon moment, la bonne quantité, etc. Et ça va nous amener à mettre le focus sur qui ? Sur Jésus-Christ. Il va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et quand vous avez des moments comme ça, j'y pense à l'instant, je me dis, quand on vit des moments comme ça, difficiles, où on a envie, où on a des poussées de convoitise dans nos vies, mettons Jésus juste devant et disons, Seigneur, je regarde à toi, et vous le déclarez. Je dis, mes pensées sont en Jésus. Vous imaginez mettre vos pensées dans le cœur de Jésus, etc. Et je crois que c'est quelque chose qui va nous protéger parce que Jésus nous permet de le faire et c'est écrit dans sa parole en Philippiens 4, 6. Ça me parle aussi, c'est pour ça que je le dis. C'est important. Et ça nous permet de passer au cinquième jour. On va couper le cinquième jour en deux. Il y a une partie où, on ne va pas rentrer dans le détail. Vous avez fait cette partie chez vous qui nous parle. On va le voir tout de suite. Matthieu 22, versets 17 à 21. C'est OK pour vous? On passe au cinquième? C'est OK toujours pour vous sur le net?
Yes.
Ok.
Ouais.
Ça marche. Allez, Matthieu 22, 17-21. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César? Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit, « Hypocrites, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent et il demanda donc, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César. Jésus leur répondit alors, rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. On connaît tous ce verset. Le verset suivant, c'est Romains 13, versets 1 à 7, et je lirai juste le début. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose, etc., etc. Vous connaissez le verset. La question qui était posée, c'était pourquoi il est juste bibliquement de payer des impôts. Et c'est justement juste parce que Dieu a institué des autorités pour servir le peuple et donc que la fraude est punissable. Et même si ces autorités ne prennent pas conscience que Dieu les a établis ou que ces autorités ne sont pas en accord avec les principes, les commandements que Dieu a établis, nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas passer outre les principes que Dieu a établis. Et Dieu pourrait nous dire, quand on lui demande une bénédiction, une réponse, une prière, il dit « tu ne suis déjà pas mes principes parce que tu fais ta propre justice, alors comment veux-tu que je libère une bénédiction pour toi. » Donc c'est important de croire que effectivement Dieu a placé un gouvernement, il y a des lois, il y a des choses, et on ne peut pas les contourner. C'est exactement pareil pour le travail au noir. pourquoi on travaille pas, on fait pas du black? C'est parce que on fraude, c'est tout. Et que frauder n'est pas valable aux yeux de Dieu. C'est un péché. Alors attention, parfois il y a des méthodes qui nous permettent de réduire nos impôts. Certaines méthodes sont légales, mais attention, selon le cœur de Dieu, c'est bon de payer un impôt. Sinon, il le dénoncerait. Il dirait clairement, il donnerait dans sa parole des indications pour nous dire attention, les impôts, les taxes, etc., ne les payez pas. Par contre, il est clair que pour Dieu, payer des taxes que vous ne devez pas, ce n'est pas bon non plus. On est d'accord ? De payer des choses qui ne sont pas justes, attention, vous n'allez pas dire bah, on m'a demandé ça, maintenant je ne vais plus râler sur ma fiche d'impôt, etc., même si ce n'était pas juste, c'est bon de payer. Attention. Mais par contre, il y a certaines pensées, certaines personnes qui vont vous dire j'ai trouvé toutes les astuces qui sont légales pour ne pas payer. Je te montre, c'est légal, on est dans les clous, mais j'ai trouvé toutes les combines, etc. Et si tu fais ci, ça, ça, ben ça te revient, nanana, etc. Attention à cette pensée-là, elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu parce que, selon le cœur de Dieu, de payer un impôt dans l'État, dans, comment je peux appeler ça, dans le cadre législatif que Dieu vous a, où Dieu vous a permis de grandir, de vous développer, de vivre, il y a un impôt. Donc attention. C'était clair ma dernière phrase ? Ok. Donc voilà, certaines fois on peut trouver des super combines et tout ça. Si vous en avez, vous venez m'en parler. Je prierai pour vous et puis je noterai les combines pour savoir comment faire. Ok. Oui, vas-y Jean.
Oui, ma question c'est, dans ce cas, par exemple, moi il m'est arrivé de partager un peu mes services, mais moi non quelque chose, mais je le fais d'une manière volontaire. Par exemple, je suis aussi jardinier, un exemple, et que chez nous, là où je suis, bon, il y a beaucoup des particuliers qui ont besoin, par exemple, coup de main, tout ce qui est paysagiste, tout ça. Et je me dis que ça peut m'apporter quelque chose. Dans ce cas-là, comment on peut... Je sais que je serai payé au black, au fait, parce que c'est 2-3 heures par semaine, tout ça. Dans ce cas, comment on peut l'analyser, au fait? Comment procéder? Si je suis... intentionnellement, je sais que la personne va me rémunérer d'une manière correcte, mais ça ne sera pas déclaré, au fait. Donc, dans ce cas-là, en réfléchissant à ça, comment on peut procéder, au fait?
C'est simple. Il faut arrêter. Non, c'est bien que tu puisses le dire. Pour moi, il y a deux cas. Lorsque vous rendez un service à une personne, que vous ne demandez rien en retour et que vous n'êtes pas allé pour recevoir quelque chose en retour et qu'elle vous donne un chèque ou voilà, en espèces, une enveloppe, tiens, bah, ça m'a fait plaisir. Pour moi, ça, ce n'est pas du black. Si maintenant, on retourne chez cette personne et on sait que la dernière fois, elle m'a donné 100 balles, je reviens avec la même attitude. Ah, je sais, je le fais pour rien, je ne te demande rien. J'espère qu'elle va me donner un petit chèque. Là, on est dans l'attitude de... Moi, je me dis toujours, c'est simple. Prenez un agent du fisc et vous le mettez à côté de vous. Et vous lui demandez ce qu'il en pense de ce que vous faites et de ce que vous gagnez. Et si vous êtes en paix de lui expliquer, vous êtes en paix devant Dieu. Ok ? Si vous n'êtes pas en paix, aussi genre... Oh purée, si là maintenant il y a un contrôle de l'URSSAF et tout ça, s'il y a les camionnettes de la police qui entourent le chantier parce que du coup j'étais employé au black, etc. Et vous n'êtes pas en paix, etc. J'ai déjà entendu des personnes comme ça qui ont dû fuir des chantiers parce qu'il y a la police qui est arrivée. C'est, voilà, vous savez, devant Dieu, vous avez une responsabilité. En fait, quand on fait ça, c'est indirectement et très loin, on peut chercher en arrière, on peut dire, ben, si je dois payer des taxes, ça va me coûter. Ça va, finalement, au lieu de gagner 100, je vais peut-être que gagner 70, mais j'aurais pu gagner 100. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que Dieu ne peut pas pourvoir plus. Voilà. Et quand Dieu voit ça, il dit, ah ben il place sa confiance dans son business ou dans ce qu'il fait, et il va avoir peut-être plein de business, etc., sans problème. Et je connais des gens, ça fait des années qu'ils font ça, sans problème. Mais par contre, Là, cette semaine, j'ai encore entendu une personne, une fille qui est mannequin, qui a fait des missions à l'étranger, etc., de mannequinat, etc. Et elle n'a pas déclaré tout le montant qu'elle a gagné à l'étranger. Elle n'a que déclaré ce qu'elle avait en France. Et là, aujourd'hui, elle doit payer... elle n'a pas déclaré 50 000 euros, donc ça fait des grosses sommes quand une fois ils tombent dessus et qu'ils mettent le doigt. Voilà, c'est ce qui se passe. Un jour, tant que ça se finit bien, c'est bien. Mais si ça ne se finit pas bien, ça se finit très mal, souvent. Donc, ça n'empêche pas de dire, Seigneur, moi, je veux t'honorer. Le Seigneur, il veut qu'on soit honnête. Il veut vraiment qu'on soit honnête dans les petites choses. Quand on fait des choses malhonnêtes, petites soient-elles, on laisse une petite entrée, comme le trou d'une aiguille, pour que l'air que respire le diable puisse rentrer et puis commencer à élargir l'ouverture, etc. Et puis on rentre, je pense, c'est une petite illustration que j'ai eue là. Voilà, c'est vraiment, il faut faire attention. Par contre, on peut dire, Seigneur, moi, je vais te donner des services. Comment on fait pour que ce soit légal? Je vais ouvrir ma boîte, je vais m'inscrire. En France, on a des moyens de faire et on n'est pas bloqué. En plus, avec le gouvernement actuel, ça encourage les entrepreneurs. Donc, on ouvre une petite auto-entreprise, par exemple, et puis au lieu d'aller rendre un service à 100 euros, vous allez dire, écoute, je te le fais toujours à 100 euros, mais moi, je ne vais pas gagner 100 euros, il n'y a pas de problème, t'inquiète, je gère. Et puis d'un coup, la personne va vous dire, ça, c'est pas normal. Moi, je veux 200 maintenant. Et puis, vous allez commencer à vivre des choses dans les finances où Dieu va ouvrir. Et puis, ça se trouve, vous allez devenir un entrepreneur prospère. Peu importe. Dieu, quand il voit un cœur fidèle, un gérant fidèle dans les petites choses, il va commencer à ouvrir dans les grandes choses. Donc, oui, moi, j'ai dû faire des réglages dans ma vie où dire, oh, attention, là, ça peut être du black. Donc, Seigneur, c'est pas bon, là. Et puis, certaines fois, j'ai pu faire réparer ma voiture au black. Finalement, je me suis rendu compte que j'ai fait réparer ça, et puis c'est maintenant là qu'il y a le problème, je dois payer deux fois plus. Voilà, et on apprend comme ça, mais on a besoin effectivement de faire très attention à ça. Donc payons les impôts à qui nous devons payer les impôts, et c'est là la partie où j'aimerais switcher, parce que c'est une partie qui peut nous... Voilà, on doit parler, on doit s'examiner devant Dieu. C'était la question, justement, d'avoir une attitude partiale. C'était le verset qui disait, voilà, certains ont une attitude partiale, c'est-à-dire qu'on avantage certaines personnes par rapport à d'autres, financièrement, etc. On fait du favoritisme. Et attention, aux yeux de Dieu, ça n'existe pas. Donc si nous, dans notre vie, on le vit, on le fait, on le pratique, c'est un problème. Et c'était la question, c'était de s'examiner, de dire, ok, est-ce qu'une personne qui a un certain rang social, je la dénigre, et voilà, parce que lui, il a plus de moyens, il vient avec sa Rolls, eh ben, je vais plus y prêter attention. Voilà, ça c'était juste la partie que je voulais sauter. Et on règle le problème du favoritisme. Surtout avec une attitude humble. Voilà, c'est simplement ce qui peut nous aider, c'est l'humilité, dire Seigneur, on a besoin. Ce qui contredit l'humilité, c'est l'orgueil. Et l'orgueil nous fait croire que effectivement, on a des avantages à tirer d'une personne qui a une catégorie sociale plus élevée, ou un rang, ou un métier un peu plus coté, etc. Donc, faut faire très attention, parce que quand Dieu décide d'élever quelqu'un de petit, ça se retourne contre vous après. Quand la personne que vous avez dénigrée, elle s'en souvient et qu'un jour, c'est vous qui avez besoin de ses services, je me dis toujours attention. Et vous savez, ce qui est trop marrant, c'est que cette semaine, j'ai rencontré des personnes que je n'avais pas vues depuis des années, qui étaient responsables dans la société où je travaillais avant. Et je les rencontrais presque par hasard cette semaine. Et puis, je suis amené à travailler de nouveau avec ces personnes-là. Et genre, je pense que je vais être une bénédiction pour ces personnes-là, parce que dans le milieu où je suis maintenant, dans les ventes immobilières, je peux impacter leur société. Et je me dis, oh Seigneur, je suis trop content que quand je suis parti, on est parti en bons termes. Et partez toujours de votre endroit ou de votre... Si vous démissionnez, voilà, tous les changements dans votre vie, ne pensez jamais, vu qu'on ne va jamais se revoir... Je peux lui en mettre plein la vue et je vais lui donner mes quatre vérités, etc. Parce qu'un jour ou un autre, et vous avez déjà vu des films comme ça où des gens on sauve des personnes d'une situation et un jour, dans 20 ans, c'est eux qui vous sauvent. et on a toujours besoin des uns des autres. Et Dieu crée ce genre de circonstances pour façonner nos vies, donc c'est trop cool. Attention, restons humbles, et puis que le verset qui dit « Regardons les autres comme étant au-dessus de nous, au-dessus de nous-mêmes, ce soit vraiment ce qui est, soit dans nos cœurs. » Et parfois, c'est vrai que les toutes petites personnes, les personnes qu'on ne comprend pas pourquoi ils ne changent pas avec Dieu, etc., bah juste de dire bah, « Tiens, je te vois maintenant, je vais me mettre à genoux devant toi et je vais te supplier de changer pour Dieu, etc. Je vais te montrer au travers de ma vie d'abord que tu peux changer. » Voilà, vous comprenez l'attitude qu'on a. Enfin, ça brise des barrières qui sont spirituelles incroyables qu'on ne voit pas. Quand une personne est humble, c'est une personne qui est imprégnée du caractère qu'avait Jésus. Donc c'est un caractère qui est parfait. Ben, Jésus était parfait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de comprendre. Ben, ce soir, on a vu plein d'éléments qui nous, à la fois nous challenge, mais on a aussi les clés pour y remédier. Donc gardez en tête que si peut-être vous avez une attitude vous faites du favoritisme, revenez à l'humilité et dites: Seigneur, ok, si tu avais fait du favoritisme avec moi, peut-être que tu ne m'aurais pas choisi. Voilà. Et ça nous permet d'aller au sixième jour. On va bientôt finir, on a un petit peu dépassé, mais on a terminé bientôt. Le sixième jour, c'est là où on voit des passages qui nous donnent des éclairages sur notre choix de notre style de vie. Je vais vous les lire et puis je vais vous donner les styles de vie qui s'en dégagent, qui sont transparents au travers de ces versets. Je vérifie juste si ma femme n'a pas accouché entre-temps. Ok, c'est bon. J'ai une petite photo avec le... Non, c'est bon. Ok, Marc 8, versets 36 à 37. « Et que servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ?» C'est vrai que c'est important d'y penser. Une personne peut s'enrichir énormément, mais sans Christ, à quoi ça sert ? Okay ? Quand on comprend au travers d'une formation comme ça qu'en Christ, on peut devenir riche, on peut devenir fortuné. Il faut d'abord être fortuné pour être riche. Ensuite, c'est une conséquence. Eh bien, avec Jésus et en Jésus, on saura être ces personnes qui gagneront leur âme pour leur éternité. Et souvent, vous pouvez prier et dire: Seigneur, sonde mon cœur, sonde-moi, connais mon cœur et dirige-moi sur une voie d'éternité, une éternité avec toi. Acte 4, versets 32 à 37. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. On faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Ok, je m'arrête là. C'est incroyable parce que ces personnes-là, ces chrétiens, lorsqu'ils sont devenus chrétiens, ils ont juste compris ce que c'était le contentement. Je pense qu'il y a eu une puissance énorme et ils ont su dire bah, tout ce que j'ai, ok, aucun problème. Je sais qu'ils ont eu confiance qu'ils allaient manquer de rien. Ils ont tout vendu et puis ils ont donné aux apôtres qui allaient gérer les finances derrière et puis répartir équitablement les ressources. Attention que l'on ne prenne pas ce verset ou ces versets pour faire l'apologie du comment on appelle ça, du communisme ou des choses qui des courants de pensée qui viennent dire que tout le monde doit être égal, que si l'autre a plus c'est pas normal, si toi tu as plus que l'autre c'est pas normal, etc., qu'on doit tous se loger à la même enseigne. Voilà, c'est ça, hein, c'est le communisme, hein, ok, c'est pas du tout ça. Mais il y avait une intention derrière qui n'est pas une intention derrière les pensées communistes. C'était que c'était l'amour de Dieu qui les poussait à faire ce genre de choses. Et on voit que Dieu, dans sa parole, donne des biens, des richesses inéquitablement. Vous vous en souvenez, on les a vus. Parce qu'on est des gérants fidèles et il nous donne des biens selon nos capacités. Donc c'est encore une fois que c'est contredit, donc cette pensée-là, attention. Et le fait de faire ça, parce que tout le monde était d'un commun accord, il y a eu une communion, ça a favorisé le réveil au milieu d'eux. Les gens, les chrétiens ont fait ça, les gens autour d'eux étaient complètement touchés, et puis ça a produit un réveil énorme. Ok, c'est une question importante. Vas-y.
Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que les capacités dont tu parles, du coup, elles se déterminent au départ et au fur et à mesure. Quand tu dis « donne selon nos capacités », tu vois. Je ne sais pas si c'est un truc fixe ou si ça évolue, en fait.
C'est ceux qui ont des pantalons avec les plus grandes poches qui peuvent recevoir beaucoup d'argent.
Ouais.
Non, ah, oui. C'est Dieu t'a donné des talents de base. Si tu te sers de ces talents et que tu les développes, Dieu va pouvoir te donner plus. Et en tant que gérant, on doit tous gérer des ressources, une famille, un foyer, etc. Notre vie juste simple. Si tu commences déjà à le faire dans les choses de base de la vie, qui sont depuis ta naissance, Dieu va pouvoir se servir de toi et puis de te donner beaucoup plus en voyant que tu es capable de le faire. Je ne suis pas sûr que si maintenant je te dis de gérer une entreprise de 1000 personnes avec un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, tu puisses y aller maintenant. Par contre, tu vas pouvoir y aller plus tard parce que tu auras fait une petite auto-entreprise et que tu auras réussi à gérer ton auto-entreprise. Super, tu auras dégagé un chiffre d'affaires et que ça ne suffira plus pour rester dans ce statut-là, que tu vas passer dans un autre statut qui est légal et qui te permet d'avoir encore plus de chiffre d'affaires, qui va te faire entreprendre des affaires beaucoup plus grandes. Tu vas embaucher des personnes jusqu'à un jour arriver à 1000 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que tu vas pouvoir progresser et que Dieu va te confier des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et on a tous, on part tous de quelque part. Personne ne peut dire, ben moi, j'ai rien eu. Même avec rien, Dieu peut faire, avec rien, il peut faire quelque chose. C'est le seul qui est capable de faire ça. Donc, c'est, voilà. OK? Je voudrais juste qu'on puisse finir. On est quasiment au bout avec un dernier verset. 1 Thessaloniciens 4, versets 11 à 12. Nous vous encourageons, frères et sœurs, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendants de personne. Je vous l'ai dit au début, quand vous êtes un artisan de paix, au milieu des vôtres, de votre famille, de votre couple, de votre... une bonne question, est-ce que dans une dispute dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, qui c'est qui est le premier qui demande pardon en premier? Super, super. C'est hyper important, merci Clémentine. Mais tu as appris. Eh bien, c'est très bien. Et tu nous en partageras les expériences. Mais je veux dire... Vous êtes un artisan de paix dans votre famille, c'est ce qui est bibliquement demandé. Pourquoi? Parce que ça va impacter l'extérieur. Ok? De vivre une vie tranquille et de s'occuper de vos propres affaires, ça rejoint le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Regardez à Dieu, à Jésus-Christ. Ne regardez pas chez votre voisin. C'est facile à dire, hein, mais voilà. Si votre voisin démarre tous les jours une Ferrari devant votre fenêtre, votre chambre à coucher, ça va être difficile de ne pas aller regarder à ça et de lui mettre un pavé sur le pare-brise. Mais évitez les conflits. Par contre, peut-être qu'en bon terme, un jour, eh ben, il va vous donner sa Ferrari. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de créer le climat avec l'attitude que Dieu honore. Ok? Oh purée, j'ai reçu un message de Mathilde. M'excuser. Hop. Quatre kilos. Trois. Non, c'est bon. C'était. Elle vient de dire qu'elle a acheté un appartement sans m'en parler. Ok, allez. C'est vraiment que je ne dois pas finir ce cours ou qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc effectivement, la comparaison, la télévision, les magazines, les catalogues, les publicités, tout ça, c'est des choses qui peuvent effectivement nous regarder, nous faire regarder aux autres plus que ce que nous on a, et de nous empêcher de nous contenter, de nous satisfaire. Et est-ce que justement on est des personnes qui dépensons plus de temps dans les publicités ou dans la télévision, dans les médias, dans ces choses qui nous... On sait que c'est, ça peut être néfaste, on ne peut pas dire que c'est un péché, mais attention. Est-ce que vous êtes des personnes qui dépensez votre temps dans l'étude de la parole et dans l'engagement envers Jésus, à pratiquer ce que Jésus vous demande? Et est-ce que vous avez l'impression que Dieu aimerait voir des changements dans votre vie? Et si oui, c'est très très bien. C'est pas du tout un problème. Si oui, je vous encourage, mettez-vous devant Dieu, qu'on se mette en tant qu'Église devant Dieu. Il y a des temps spéciaux qui arrivent pour l'Église et on est là pour se mettre devant Dieu et dire Seigneur, on fait un point dans notre vie, donc allons-y. On a l'impression que Dieu veut améliorer des choses dans notre vie. Il ne faut pas repousser à plus tard, procrastiner, allons-y. Laissons Dieu régler des choses. Est-ce que c'était un cours qui vous a aidé ce soir? Est-ce que c'était quelque chose qui... Ouais, cool. Bah, je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, je suis d'accord de répondre aux questions. Il y a certaines personnes qui doivent partir, je vous libère. Je voudrais vous donner des infos. Je réponds aux questions juste après. Le prochain rendez-vous, c'est le samedi 24 février. Je vous avais demandé de réserver votre date bien avant, le samedi 24 février, après-midi, on va commencer. Alors, je vous envoie le planning. Ce sera que l'après-midi, pas le matin. On va faire deux sessions. Alors, pour l'instant, c'est ça, je n'ai pas encore le timing tout à fait établi. Ce que je pensais, c'était... Je vais le dire. C'est 13h, 13h, 15h ou 14h, 16h. Avec une pause, un goûter, etc. Et on reprend une session, une dernière session d'une heure qui n'est pas prévue au programme. C'est une 13e session, mais je trouve spécial et bon de faire une dernière session récap. En fait, ça permet, même si vous n'êtes pas là, si vous n'avez pas été là toutes les sessions, venez prendre part à ce temps-là. Et j'aimerais qu'on puisse, en tant qu'Église, prier les uns pour les autres, on déclare, on va voir, on va se laisser conduire par le Seigneur, mais laisser un temps de, entre guillemets, de ministère pour qu'à la fin de cette formation, on ne s'arrête pas juste là et on fait un bon repas et on se claque les mains et c'est parti, un check. C'est qu'on vive un temps fort avec Dieu et dire « Ok, Seigneur, on va vivre des choses. » Et lors de cette session, je vous donne ça comme un teaser, il y aura une personne, un invité surprise et ça va être trop de la bombe. Donc, voilà, les curieux. La curiosité est un vilain défaut. À nous de préparer ces temps dans la prière et à vous de... je dirai rien. Vous ne saurez rien et sur les secrets, je suis imbattable. Donc voilà. Venez samedi le 24. Je vous enverrai par email tout le programme. On va encore le définir avec les leaders parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse accentuer un temps de ministère pour que on soit voilà. Pour ceux qui, les personnes qui sont pas là, il y a aucun problème. Vous serez pas exclus. On peut prier pour vous à un autre moment. Il y a aucun souci. Mais en tout cas, privilégiez ce temps. C'est un samedi. C'est un moment. Je sais que c'est un week-end. On peut pas le faire un dimanche. On le fera un samedi. C'est une demi-journée. Vous avez la matinée pour faire vos courses, etc. Et puis le samedi après-midi, on finira avec un temps, je demanderai à tout le monde de ramener quelque chose à manger, on se fait une grosse bouffe, on fait la fiesta, DJ et tout, on fait une super, on claque des milliers et tout, voilà. Tout ce qu'on a appris, on le met en pratique, ok? Non, ce que je veux dire, voilà, pour vous qui venez de loin, les amis de Belgique, je ne sais pas si vous pourrez venir, on en reparlera, on en rediscutera et on fera ce qu'il faut pour que vous soyez hébergés, si c'est le cas. Pour toi, Gary, aussi, n'hésite pas à nous faire des retours. Pour toutes les personnes qui écoutent l'enregistrement aussi, voilà, j'espère que, que vous serez parmi nous, parce que c'est un bon moment. On a commencé ensemble, on finit ensemble. Et je l'ai dit avant, on finit pas, on commence la vie maintenant. On va plus loin ensemble, ok? Ça marche. Bah, écoutez, on finit comme ça. Soyez bénis. Et puis, et que vraiment le Seigneur vous raccompagne. Et puis, passez un bon week-end. Voilà, merci d'être venus.